NoWatch.fm.
Incredible web shows.
Bonjour, je suis Alexandre.
Je suis Florent.
Et je suis Caroline.
Et vous êtes sur Azeroth.fr. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 43e épisode d'Azeroth.fr. Nous sommes en mars 2010. Je suis Alexandre et je suis comme toujours en compagnie de Florent et pour le deuxième mois consécutif de Caroline. Caroline et moi qui sommes toujours d'ailleurs dans la même pièce. Donc Florent lui est retourné à Rennes et un épisode qui va sortir juste en mars puisqu'il va sortir le 31 mars. Comment ça va Florent ?
Bah, très bien. Pour ma part, mes activités Warcraftiennes n'étaient pas très remplies. Pour la simple et bonne raison que le seul jeu quasiment que j'ai joué ce mois-ci, c'est StarCraft 2.
Oh, donc t'as rien fait sur World of Warcraft ?
J'y ai joué un peu en fin mars, mais après, ouais, non, après, j'ai dit non, je me concentre sur StarCraft 2 tellement ce jeu est génial ici, mais tellement c'est trop bien, quoi.
Bon, on en touchera deux mots tout à l'heure.
Oui. Voilà.
Caroline, comment ça va ?
Bah moi, écoutez, ça va très très bien. J'ai pas joué non plus, du tout. Pour cause, j'avais un voyage organisé à Berlin. Et donc du coup, j'ai vraiment pas pu jouer du tout.
Ah là là, mais bon, tu t'es tenu au courant.
Mais je me suis bien tenu au courant. Et en fait, j'ai fait un raid pratiquement le jeudi où je suis rentrée.
Ah, donc, ok. Donc en fait, t'as arrêté le jeu pendant 4 jours.
Voilà, c'est ça en fait.
Non, parce que Caroline nous dit, hein, elle a arrêté, on a l'impression que c'est un arrêt d'un mois complet, tu sais.
Mais c'est ça. Non, c'est pas vrai.
Ça t'a paru comme un mois.
Ça m'a paru comme un mois.
Ok, bon, moi, je devrais avoir mon ordinateur incessamment sous peu. Hein. Je vous avais dit que je devais l'avoir en début de mois, finalement ça s'est pas fait. Là, ça se fait normalement le week-end prochain. Donc pour une fois, on n'enregistre pas durant le week-end, on enregistre en milieu de semaine. Nous sommes le mercredi 24 mars. Et normalement, l'épisode devrait sortir le 31 mars, donc tout juste en mars, mais on tient notre promesse d'un épisode par mois. Bon, on va passer directement dans le sommaire, puisque je pense qu'il n'y a pas eu énormément de choses dans vos vies personnelles, si ?
Non.
Allez, ok. Donc, dans le sommaire, partie info, nous aurons tout d'abord ce qu'il s'est passé en mars, ce qu'il va se passer en avril, la mise à jour 3.3.3 qui est sortie tout juste ce matin, la mise à jour 3.3.5, le chat Twitter qui a eu lieu durant le mois, et enfin, une tonne d'infos cataclysmes. On n'en avait pas eu autant depuis la BlizzCon, donc vous allez voir que, par exemple, le système de caractéristiques et la maîtrise sont fort intéressantes. Partie éditoriale, nous aurons, comme chaque mois, Warcraft pour les nuls avec le truc et le mode du mois. Nous aurons évidemment le Mind Pet Show. Dans Warcraft pour les semi-pros, nous aurons comment devenir pro, mais nous n'aurons pas de débat du mois. On n'a pas trouvé de sujet qui nous intéressait ce mois-ci. Et nous aurons l'histoire de Malfurion Stormrage. Enfin, dans Partie Fourre-Tout, on aura le fameux On aime, on n'aime pas, le cadeau bonus, la partie d'hiver et le concours, un concours ce mois-ci qui est sponsorisé par
Nat.
Par Nat. On verra ça tout à l'heure et on passe directement dans la partie news. News et tout d'abord ce qu'il s'est passé en mars. En mars, quelques petites choses. Tout d'abord, un royaume joueur-conjoueur, Varimathras, est devenu un joueur, un royaume, joueur contre environnement. Donc c'est passé de PVP à PVE. C'est une première dans le monde de Warcraft.
Oui,
et bon, évidemment, les joueurs ont eu un transfert gratuit vers 3 autres serveurs joueur contre joueur pendant un mois pour ceux qui voulaient véritablement rester sur du joueur contre joueur. Alors, pourquoi un tel changement, Florent ? Est-ce que tu as eu quelques infos sur ça ?
J'ai pas eu trop d'infos, mais je pense, d'après moi, c'est que le joueur contre environnement est plus prisé par les joueurs.
Ouais, tout d'abord ça, et aussi le Varimatras, en fait, était un serveur qui était très très vide. Il y a eu très peu de personnes qui sont allées dessus, et donc et le joueur contre joueur effectivement n'attirait plus vraiment. Donc ils se sont dit, on va le mettre en PVE, on va le mettre en nouveau joueur, et comme ça, ça va attirer plus de monde dessus.
Ouais. Donc bon. Il y a eu quand même quelques personnes qui ont rouspété, parce que bien sûr ceux qui avaient fait des guildes et.
Oui, mais toutes ces guildes ont pu finalement partir sur, sur 3 autres royaumes pendant un certain temps. Bon, effectivement, après, pour les personnes qui ont peut-être fait une pause dans le jeu, là, c'est plus problématique pour ces gens. Enfin, plutôt un aspect technique.
Oui, pour pouvoir repeupler les diverses...
Disons que l'équilibre des populations sur les serveurs a toujours été un problème.
Ouais.
Donc, c'est un petit peu un nouveau moyen de combattre ces inégalités. On voit bien qu'il y a des serveurs où il y a vraiment des tendances hordeuses, parfois, ou des tendances... allianceuse forte, donc on espère qu'un jour ils trouveront la solution, mais ça n'a pas l'air simple.
Non.
En mars aussi, concernant ICC, donc la citadelle de la couronne de glace, évidemment il y a eu quand même un gros nettoyage des guildes, gros nettoyage, et un nerf de beaucoup de boss. Donc par exemple, tu peux nous donner quelques exemples, Caro ?
On avait déjà parlé l'épisode précédent quant à Gargamel, où l'aggro était renouvelé après la tempête d'os, par exemple. Et je sais aussi que les marques de sang sur Socro vont être moins fréquentes.
Ok, donc quelques boss qui, comme ça, ont vu leur habilité diminuer. Et aussi un buff qui a été ajouté, un buff qui augmente de 5% les dégâts, de 5% les soins et de 5% les points de vie dans la citadelle de la Corne de Glace. Et ce buff sera augmenté graduellement, plus le temps passera, en fait, plus ce buff sera fort pour aider les guildes. Et apparemment, ce buff quand même est très puissant, quoi. 5%.
Et très puissant, et on peut choisir de l'enlever aussi.
Ouais, sans aucun bonus, sans rien. Quoi.
Sans rien. C'est une difficulté à ajouter en plus pour ceux qui veulent avoir envie d'avoir un...
Oui, de faire le raid un peu à sa difficulté originelle.
C'est ça.
Malgré les nerfs de tous les
divers boss.
Et en parlant de la citadelle, évidemment, en mars, dernière petite news, la guilde Paragon a réalisé le World First en tuant le roi Lich en raid 10 joueurs, en raid 10 joueurs héroïque. Donc, elle a été suivie de très près par Insidia. Et y a eu une rumeur comme quoi Invincible avait été looté, mais on ne l'a retrouvé nulle part.
Hein, ouais,
donc, petite rumeur qui a un petit peu flotté sur le net, mais qu'on dément.
En fait,
non, ça n'a vraiment pas été looté. Donc c'est à peu près tout ce qui s'est passé en mars, quoi. Focalisation sur les raids et pas grand chose d'autre, entre guillemets. Par contre, en avril, on arrive sur pas quelque chose d'important, mais sur un nouvel event. Donc maintenant, on a décidé de vous parler des events avant qu'ils aient lieu. On s'est dit que c'était pas très très intéressant de les traiter après, puisqu'en fait vous pouviez même pas en profiter. Et donc en avril, Florent, je vais te laisser aborder le sujet.
Donc on a juste un event en avril, du 3 au 10 avril, qui est donc le Jardin des Nobles.
Donc on va manger plein de chocolat, c'est ça ?
Voilà, donc c'est évidemment l'event qui se réfère à Pâques, enfin IRL donc.
Ouais.
Donc ouais, qu'est-ce qu'on fera ? On aura plein de lapins, du chocolat et on aura la classe en costard.
le truc,
ou en robe de
soirée. Oui, on se demande pourquoi ils ont mis des robes de soirée comme ça. Mais bon,
c'est
parce
que
c'est le Jardin des Nobles, hein, oui,
voilà.
Tout à fait. Donc en fait, qu'est-ce qu'il va y avoir un peu plus spécialement à ce Jardin des Nobles ? Quelle est la spécificité de cet event, s'il y en a une ?
Déjà, vu que c'est Pâques, à Pâques, qu'est-ce qu'on fait ? Vu qu'on est tous des grands enfants, on va chercher du chocolat un peu partout dans les zones de départ, surtout. Il y en a partout, mais la plupart se retrouvent dans les zones de départ.
Tu veux dire Goldshire, etc. Enfin,
voilà.
Les villages dans lesquels on a l'habitude de faire les events saisonniers.
Voilà, c'est ça. Et donc ces chocolats, on pourra les manger, mais ce qui sera largement plus intéressant, c'est d'acheter des objets avec. Il y a quelques objets mineurs ou qui servent à faire des, les hauts faits, parce qu'il y a le titre toujours pour après avoir son magnifique Drake turquoise.
C'est pas turquoise, non, c'est pourpre.
Hein. Oui, il est...
Le proto-dark.
Proto-Drake.
Oh. Violet, ouais, c'est violet.
Violet, oui, excuse-moi.
Ah. Voilà. Et donc, par exemple, les deux objets qui sont qualité bleue, qui sont assez sympas, il y a la patte de lapin du printemps, qui nous permet donc de invoquer un familier, un lapin. Et le tome de métamorphose en lapin.
Le tome, c'est du fromage.
Miam.
Toi qui es mage, donc c'est pour les mages, et qui permettra au lieu de transformer en un petit mouton tout simple, un petit lapin.
Très mignon.
C'est super mignon. Bon, ça coûte un peu cher en termes de chocolat, hein. Il me semble
que
c'est...
Sans chocolat, mais voilà, pour les grands fans de la chasse au trésor...
Autant vous dire quand même que ça va être surformé dans les zones de départ. L'année dernière, il y a pas mal de gens qui avaient eu beaucoup de mal à atteindre un nombre de chocolats important, à part en se couchant à pas d'heure ou en se levant très très tôt. Donc tout ce qu'on peut vous conseiller, c'est vraiment d'y aller dès l'ouverture, entre guillemets. Donc tu m'as dit que c'était le 3, c'est ça?
Voilà. Et faites attention à ne pas manger vos chocolats, surtout vu que ce sont des consommables aussi.
Mangez-les IRL.
Voilà.
Et devenez comme Caro.
Aussi loin.
Hop là. passons à autre chose. Ah, tu voulais peut-être pas nous citer quelques HF.
Il y a un haut fait que j'ai trouvé assez sympa à faire. Enfin, le nom a l'air vraiment très marrant et je pense qu'il va être assez kiffant à faire. C'est en fait on doit pondre un œuf au surjeu de Golaka.
Oh Caro.
En étant déguisé en lapin.
Oui, parce que la jante féminine peut porter des magnifiques oreilles de lapin durant.
Avec une petite queue en pompon.
Une petite queue en pompon.
Ouais.
C'est pour les garçons, ça. donc nous passons à la mise à jour 3.3.3 et à cette mise à jour donc qui a été installée, qui a été installée ce matin quoi,
ouais.
sur les royaumes live. Donc une installation de mise à jour ce mercredi 24 mars. Mise à jour qui était quand même d'une taille assez importante pour un patch mineur. Finalement c'est pas un vrai patch mineur, bon gros patch mineur, 178 mégaoctets et quelques corrections de bugs et améliorations. Donc, tout d'abord une correction de bugs qui vaut le détour, qui sont, alors tout le monde a fait des quêtes évidemment j'espère pour monter en niveau, et vous avez dû remarquer quand vous avez plusieurs quêtes chez un PNJ et que vous en avez par exemple, je sais pas, sur le PNJ vous a donné 4 quêtes, vous en avez terminé 2, vous allez lui parler et évidemment de quelle couleur sont tous les points d'interrogation, ils étaient tous jaunes. Donc, quand vous ouvriez la boîte de dialogue, vous aviez 4 points d'interrogation jaunes, et évidemment vous aviez oublié le nom des quêtes que vous aviez terminées, donc vous deviez cliquer et voir que finalement c'était les quêtes que vous n'aviez pas terminées forcément. Et bien maintenant, dans ces fenêtres de dialogue, vous aurez les bonnes couleurs, c'est-à-dire si vous n'avez pas terminé la quête, et bien vous aurez un point d'interrogation gris, si vous avez terminé la quête, vous aurez un point d'interrogation jaune, et les quêtes que vous pourrez prendre chez eux aussi seront... coloré, par exemple si c'est une quête qui est grise, ben normalement le point d'interrogation sera gris, si c'est une quête répétable, le point d'exclamation sera bleu, et si c'est une quête normale, le point d'exclamation sera jaune. Donc moi personnellement je suis totalement fan parce que ça m'est arrivé plein de fois quoi, de terminer une quête, d'aller le voir et de me dire bon je sais plus quelle quête j'ai terminé, cliquer. C'est des petites choses, des petites pertes de temps dans ces moments-là,
c'est des
mais
petits détails en fait.
Voilà, mais je veux dire c'est des petits détails qui font plaisir quoi, ouais. Je trouve. Donc, petite correction. Autre chose dans cette mise à jour 3.3.3 qu'on avait oublié de parler, on avait oublié d'en parler le mois dernier, c'était le système des champs de bataille aléatoires. Donc, maintenant, le système des champs de bataille va être revu et va se rapprocher de la recherche de groupe. C'est-à-dire, vous aurez un système qui vous permettra de vous inscrire dans une file d'attente, comme pour la recherche de groupe, et aussi la quête sera sous la même forme. Donc lorsque vous ferez pour la première fois cette quête aléatoire, ce champ de bataille aléatoire, vous aurez l'équivalent de 30 victoires honorables en points d'honneur et 25 points d'arène, chose qu'on n'avait pas encore vue, des points d'arène via les goulets, via les champs de bataille. Et pour toutes les autres victoires via ce champ de bataille aléatoire, ça sera comme en recherche de groupe, vous aurez un bonus un peu plus faible, vous aurez seulement 15 victoires honorables supplémentaires, en plus du bonus lié à la victoire dans le goulet. Donc ça apporte vraiment un gros bonus. Bon, évidemment, si vous vous retrouvez dans un Alterac et que vous détestez Alterac, dommage pour vous. Mais ça risque de repeupler les goulets qui étaient un peu délaissés. Je pense par exemple au nouveau goulet qui avait été lancé durant Wrath of the Lich King, qui était l'île des Conquérants. Donc effectivement, assez peu de monde va en fait. Enfin, j'ai l'impression quoi.
Bah,
personne.
Pas,
moi, ouais, j'ai jamais y allé. Moi.
Voilà. Non, c'est pas là où je vais. Même si je fais très peu.
Disons que je pense que beaucoup de monde a trouvé que ça laguait un peu trop, peut-être.
Oui, c'est ça.
Moi, je sais que j'avais eu un peu de mal. Ça m'avait rappelé les meilleures heures du jeu d'hiver. Et aussi, via ce système de champ de bataille aléatoire, même si vous avez une défaite, vous aurez quand même un petit bonus. Un peu pour avoir participé. En important, c'est de participer. Vous aurez 5 victoires honorables. Par contre, je sais pas si ça fonctionne aussi avec une fois que vous avez gagné. Enfin, 5 victoires honorables. Ça sera pareil pour les appels aux armes, et ça sera non cumulable. Donc pour les appels aux armes durant les week-ends, par exemple l'appel aux armes à Arati, et bien s'il y a un appel aux armes à Arati, vous aurez les bonus de 15 victoires honorables en cas de victoire et de 5 victoires honorables en cas de défaite. Par contre, ça sera non cumulable avec le champ de bataille aléatoire. Le maximum du nombre des groupes qui pourront s'inscrire maintenant via le système de champ de bataille, ça sera 5. C'est-à-dire que vous ne pourrez plus créer un raid de 10-15 personnes voulant s'inscrire en même temps, par exemple dans un Warsong ou un Arati. Maintenant, ça sera des groupes maximales de 5. Et ça, je sais qu'il y a des gens qui trouvent ça un peu dommage. Quoi. Par exemple, si vous êtes en guild, vous avez envie de faire un petit, un Arati qui est 15 joueurs contre 15 joueurs. Et si vous avez 7 membres de votre guild, et c'était toujours agréable de pouvoir y aller à 7. Quoi. Maintenant, ça sera plus possible, ça sera 5 dans un groupe maximum. Et enfin, pour en terminer avec les changements à la mise à jour 3.3.3 sur le joueur contre joueur, le montant d'honneur gagné via les victoires honorables sera augmenté totalement, n'importe où, de 100%.
Quel que soit le niveau et tout.
Quel que soit le niveau, quel que soit tout. Par contre, l'expérience gagnée en goulet durant le leveling, par contre, elle ne sera inchangée. Donc, on va gagner beaucoup, beaucoup plus d'honneur via les victoires honorables. Et on n'oublie pas quand même les bonus aux points d'honneur lorsqu'on a une victoire honorable près des points stratégiques de défense, par exemple dans les Arati, etc., etc. En parlant d'amélioration de système, amélioration aussi du système de recherche de groupe, qui va maintenant prendre en compte, on en parlait juste avant en parlant de Pâques, qui va prendre en compte les boss saisonniers avec un TP, avec une téléportation directement sur la zone. Donc par exemple, si on est en octobre et que c'est la 101, eh bien vous aurez une case vous permettant de vous inscrire pour le cavalier sans tête, et avec une téléportation directe au monastère écarlate, ce qui est pas un mal parce qu'en étant de l'Alliance, je peux vous dire que le chemin était assez long, quoi. Traverser un lac, etc. Bon, c'était assez long, donc ça fait plaisir. Et il y aura des loot rares sur ces boss. Des loot rares qui vont un peu changer pour éviter le farm. En fait, il y avait une mode un petit peu au farming qui s'était faite. C'est-à-dire, je vais reprendre encore mon exemple du cavalier sans tête. En général, on y allait à 5 personnes qui avaient chacune leur idée dite up. Donc leur idée, c'est leur identification, donc qui n'avaient pas encore fait l'instance dans la journée, qui n'avaient pas encore utilisé leur quête journalière pour invoquer le cavalier. Et avant, on faisait ça, puis ensuite on ramenait des rerolls qui étaient niveau, 70, 75, 80, pour tout simplement aider d'autres personnes, pas soi-même, hein, pas son reroll. Son reroll, on s'en fiche, mais c'est simplement pour donner un essai supplémentaire pour essayer de looter les loots rares. Bon, ça, c'était pas du tout dans l'optique de Blizzard d'obliger, entre guillemets, les gens à farmer les boss saisonniers pour tomber les montures ou les loots rares qu'on voulait. Donc maintenant, sur les boss, pour tous les joueurs, il y aura un sac spécial de récompenses journalier et vous aurez beau faire deux fois le boss, et bien ça changera rien. Quoi. Enfin, tout le monde gagnera. Au lieu que ça soit un rôle, comment on dit un rôle ?
Un quoi ?
Un rôle du sécupilité besoin.
Besoin de lancer de dés. Un lancer de dés.
Un lancer de dés, voilà, un rôle.
Ouais, un round.
Quoi. Ouais, un random. Ouais. Au lieu qu'il y ait un random, mais enfin là, il y aura un random.
Oui.
Non, d'ailleurs. Pardon, il n'y aura plus de random. Maintenant, il y aura un sac spécial. Donc, un nouveau système qui va prendre en compte les boss saisonniers. Et nous, évidemment, on aime ça. Donc, c'est un tout petit changement, mais très agréable au final. Cette 3.3.3 aurait été surtout quand même le symbole de pas mal d'ajustements au niveau des classes. Avec quand même pas mal de modifs sur des talents, des sorts, des bonus, des cooldowns affectés au sort, etc. On a vu beaucoup de petits détails qui ont été recalibrés en cette fin d'extension, enfin qui est une extension, mais encore la 3.3.5 qui arrive. Hein. Mais on a vu qu'il y avait quand même un petit peu un remaniement selon, petit peu s'en sortir, voilà, des ajustements. Enfin, je trouve que c'est un peu des ajustements pour s'en sortir par rapport à la manière exponentielle dont, la manière exponentielle dont a évolué. Ma phrase ne veut rien dire.
C'est pas grave.
Comment a évolué, je voulais dire, les pourcentages affectés aux dégâts, aux coups critiques, etc., qui ont été affectés un peu trop fortement durant l'extension à cause des équipements trop puissants. On vous en parlait tout à l'heure, évidemment, l'activation du buff à la citadelle Corne de Glace, mais bon, ça on vous en a parlé en même temps que l'Ice Crown Citadelle. Aussi, ce qui va peut-être intéresser les collectionneurs, Florent, je ne sais pas si tu as remarqué ça en allant à Dalaran ce matin, si tu y es allé. Trois nouveaux compagnons à l'achat dans les magasins de jouets Dalaran, le magasin de jouets où vous pouviez acheter par exemple les avions en papier.
Les avions en papier, des éplins.
Ouais, ou les petits trains, et bien il y aura trois compagnons. Donc l'Europe Fusée Mécanique Bleue à 40 pièces d'or, le Kongbaf de course bleu à 32 pièces d'or, et la petite poupée de chiffon bleu à 8 pièces d'or. Alors pourquoi tout ce bleu? Peut-être pour la cité de la couronne de glace, non? Je sais pas.
Ouais.
Tu demandais un symbole étrange avec le bleu.
Ouais. Le bleu ça se reflète plutôt à l'Alliance, mais bon, là on va faire encore du favoritisme pour l'Alliance.
Et oui, donc ce sont des objets purement
pour l'Alliance. Non, c'est pas vrai. Il n'y a pas une histoire de la poupée de chiffon bleu où la base a été verte, ou je sais pas où il y en a une?
Non, il y en a une verte, mais en fait, c'est un objet qui se pose tout simplement au sol. Contrairement au fait c'est un nouveau compagnon.
D'accord, ok.
Et durant la 3.3.3, alors c'était même plutôt en mars, on aurait peut-être dû le mettre en mars, c'est le First Shadow Mourn. La première deuil ombre qui a été forgée, donc objet légendaire de la citadelle de Corne de Glace, ça y est, il est tombé, donc ça y est, vous pouvez remballer quoi, c'est fini les raids.
Ouais, c'est fini.
Moi, il manque plus qu'invincible quoi.
Ouais, voilà.
Invincible, puis on arrête tout.
Puis deux, trois petits loops sympas aussi.
Ouais, en fait, il y a aussi eu, comment s'appelle-t-il, le Ophée écumeur de raid, écumeur de la citadelle à 10 joueurs. En mode héroïque, qui a été fait, donc qui demande de faire des hauts faits insensés en termes de difficulté.
Oui.
Déjà pour les guildes qui ont du mal à tuer des boss, autant pas se lancer là-dedans, mais évidemment ça donne une monture volante, proto-drake me semble-t-il. Wyrn, pardon.
Oui.
Wyrn de givre.
Wyrn de givre.
Qui est évidemment très très sympa.
Ouais.
Donc c'est tout pour la mise à jour 3.3.3, évidemment. Vous encourage à la découvrir, et si on a quelques petites choses, une petite review à faire, enfin, les changements finalement étaient plus techniques qu'en termes de contenu, mais bon,
oui.
On en parlera le mois prochain. La mise à jour 3.3.5, on vous en avait parlé le mois dernier, c'est le Sanctum Ruby, rien de nouveau, rien n'est sorti, cette mise à jour n'est pas encore sur les royaumes de thèse, sur les PTR, donc pas grand chose à dire.
On n'a rien sur le Sanctum Ruby de plus qu'on vous avait dit
ouais,
la dernière
donc,
fois.
Vous en avez parlé un petit peu sous couvert de spoil, donc on ne va pas en reparler.
Voilà.
La mise à jour 3.3, plutôt 3 points, point d'interrogation. On ne sait pas trop quand est-ce qu'elle va sortir. Je vais te laisser en parler, Caro.
Ouais, alors en fait, cette mise à jour propose...
Cette mise à jour qui arrivera
incessamment sous peu.
Normalement, un ou deux mois avant Cataclysme.
Ouais, alors en fait ça explique plusieurs attaques sur l'île de l'écho. Donc pour les trolls, en fait c'est ce qu'on vous a parlé la dernière fois, par exemple que Gnome Erengan allait être de nouveau sous le contrôle Gnome.
Sous le contrôle allianceux, ouais. Et
ouais,
les
Gnomes échos. Ils vont avoir leur maison, leurs deux pauvres petites maisons.
Ça suffit, attention, avec les Gnomes, doucement. Oui. Avec les trolls, tu peux te lâcher.
Ouais, mais non, les trolls, ils sont bien. Oh. Moi, j'aime bien les trolls.
Bon, alors, sur les îles des échos, les trolls sombre-lance vont tenter de récupérer leurs îles.
Voilà, sous l'œil attentif de Vol'jin, qui veut à tout prix récupérer les îles de l'écho.
Et là, il y a une sorte de truc étrange. C'était un peu le retour.
Ouais, non, c'était quand même assez gros, je trouve, les excuses pour...
Oui, parce que pour ceux qui ont fait les quêtes dans ces zones-là, près des îles de l'écho ou... à Gnomeregan, évidemment, vous avez fait des quêtes qui vous ont fait tuer soit Zalazan, soit Thermoplug, donc thermojoncteur.
Thermojoncteur, oui, voilà, c'est ça.
Donc, de Morrigan.
Donc, les gros boss finaux.
Bah voilà, c'est un peu les boss qui contrôlent ces zones-là. Et là, en gros, on vous dit, mais non, voyons.
Ils
sont pas morts. En gros, ils ont dit, Zalazan avait en fait,
ouais,
on a tué que des pantins, des espèces
ou
de
une
pierres
espèce de,
et tout.
De noix de coco avec des défenses. Enfin, allez lire la description qu'ils ont mise sur le site.
C'était assez drôle. Et Thermoplug, lui, c'était d'une subtile copie. Et là, on n'a pas plus d'infos, c'était simplement des subtiles copies de lui.
Oui, il s'est construit une espèce de réplica.
Oui, non, mais bon, voilà quoi.
Je trouve ça pas très original. Hein. Ça nous rappelle un peu Kael'thas.
Oui, c'est un peu comme Kael'thas qui meurt, mais qui revit, tu vois.
Voilà, c'est ça.
Enfin, Kael'thas était un peu mieux amené quand même. Il y avait ces trois orbes autour de lui, à la rigueur, ça passait. Mais là, bon, c'est un petit peu gros, mais en même temps, c'est pour notre plus grand plaisir, hein, parce qu'on va récupérer peut-être des capitales pour Cataclysme,
voilà.
On espère.
Et peut-être aussi qu'on va faire des quêtes pour justement aider.
Une suite de quêtes. Il y a un Ophée déjà,
oui,
ça c'est certain. Il y aura un Ophée pour la récupération
de
Gnomeregan, selon si vous êtes de l'Alliance ou de la Horde.
Voilà.
Pourquoi pas peut-être des instances à 5, à 5 ou même en raid, quoi, petit raid.
Ouais, ça va être sympa.
J'y crois un peu moins personnellement, mais on peut peut-être espérer un petit event, en tout cas. Donc, et comme on vous l'a dit, ces events plutôt auront lieu un ou deux mois avant Cataclysme. C'est les développeurs qui l'ont dit
sur
le chat Twitter.
C'est ça.
Magnifique transition.
Formidable.
Pour la partie suivante. Et là, on va peut-être commencer à laisser parler Florent,
oui,
parce qu'il a, je crois qu'il a entendu au loin le son de Twitter, le cui-cui du Twitter.
Petit gazouillis.
Le petit gazouillis. Donc, je vais te laisser parler peut-être du chat Twitter. Donc, ne quittez pas tout de suite. On va vous parler seulement pour le moment des infos sur Wrath of the Lich King et des infos un petit peu générales qui ont été données.
Il n'y a pas de spoil pour le coup.
Non, là pour
dans
le moment.
La partie, comme d'habitude, dans la partie
Cataclysme.
Dédiée.
Donc je te laisse en parler. Tout d'abord, l'info la plus importante, je crois, de ce chat Twitter.
je vois que ça t'intéresse. Donc c'est donc qu'on parlait il y a quelques temps d'un studio de danse qui peut-être pourrait arriver.
Oui, qui permettrait en fait de faire des mouvements avec son personnage prédéterminé selon un axe de temps, etc. Donc faire une danse un peu originale, quoi.
Faire un DDR, ouais. Pour ceux qui connaissent ce jeu, c'est un jeu où on doit bouger ses pieds sur un tapis,
oui,
c'est un peu le même genre. Donc pour Wrath of the Lich King, il aurait annoncé et Blizzard a dit que normalement ça n'aura pas lieu parce que ils en font déjà assez pour cette extension et ils ne peuvent en prévoir plus.
Ouais, en fait ils ont dit surtout qu'ils prévoyaient toujours un peu plus qu'ils ne pouvaient en faire dans une extension. Donc en fait c'est purement marketing ce qu'ils font. Ils disent on va faire ça. En fait ils sont un peu politiques sur ce coup-là.
Ils
donnent un programme et en fait ils font la moitié. Mais
comme les certains jeux qui disent en fait la fin on va pas vous la donner, vous devez l'acheter après pour 3€.
Ah ouais, ça me rappelle un jeu où on a acheté deux extensions, il y en a une troisième qui sort bientôt. Ça me rappelle un jeu là, non? C'est pas ça?
Il y a des jeux français comme ça, une certaine boîte, je ne sais pas, qui commence par U, qui finit par T.
Je ne connais pas, très bien.
Bon, voilà.
J'ai pas trop compris de quoi tu parlais là, Florent, mais c'est pas grave. Passons.
Une certaine boîte de développeurs français qui fait
vendre. Ah, ça commence par Ubi et ça finit par Soft. D'accord.
C'est ça, d'accord.
Ok, non, j'ai compris.
Mais de quoi tu parles? J'adore Ubisoft.
Ah, c'est Ubisoft, exact. Excuse-moi.
Pour Assassin's Creed, par exemple, qu'ils ont rajouté des contenus après payants.
Oh, les
salauds. Oui, j'ai vu.
Un truc comme ça, bon, ils ont fait pareil pour Prince of Persia, ils avaient carrément fait une deuxième fin achetable.
Quoi c'est pas vrai, je sais pas, j'étais au courant.
Et donc, ça fait un peu. Enfin, là, pour le coup, il n'y a pas de contenu payant rien, mais c'est un peu le même genre, c'est dire on va l'intégrer dans le jeu, en fait, non.
Enfin, en même temps, ils n'ont pas non plus basé leur extension sur le studio de danse. Hein. Attends,
c'est
pas non plus le truc qu'ils avaient écrit à corps et à cri. Ils avaient surtout basé leur extension.
Pas trop chez les boîtes, quoi. C'est dire qu'on va faire
des choses. Aucune boîte ne le fait pas, ça. Enfin, je veux dire, toutes les boîtes le font plutôt pour pas faire de double négation. Et puis surtout, enfin, ils avaient basé leur extension sur quoi? Sur le roi Lich, sur le fait qu'on pourrait, évidemment, voler en Orphande, normal. Vu qu'on pouvait déjà voler à Burning Crusade. Et des quêtes, enfin des suites de quêtes qui seraient beaucoup plus poussées avec merde, oh, ça s'appelle les popettes, comment on appelle ça, du phasing. Donc évidemment ils avaient basé ça, leur extension sur ça, et ça a très bien fonctionné. Les véhicules bien sûr aussi, l'apparition des véhicules, Donc bon, si tu te danses, on va pas non plus...
On va attendre le Cataclysme, peut-être.
Ouais, je pense pas qu'il sortira. Enfin, je suis pas sûr que ça soit non plus le truc qui est en tête des listes. Mais ils le feront peut-être un jour. Donc, ne l'enterrez pas tout de suite.
Voilà.
Autre info qui était donnée sur le chat Twitter. Là, ça, on s'intéresse un peu plus à des parties techniques en termes de gameplay. L'aggro, dans le futur, pourrait perdre de son importance. Donc là, c'est un petit peu plus pour Cataclysme, presque, mais bon, c'est du technique. Elle pourrait perdre son importance car les développeurs n'aiment pas son fonctionnement. Bon, ils aiment la notion de le challenge de devoir limiter son aggro, et pour les tanks de devoir l'augmenter, mais ils n'aiment pas son fonctionnement invisible. C'est-à-dire, son fonctionnement est très limité à l'interface de l'utilisateur. En fait, c'est une barre qui se remplit et qui se vide selon qu'on augmente ou qu'on diminue son aggro. Et ils trouvent que c'est pas assez visuel, quoi. C'est vrai, ils se demandent en fait si c'est réellement amusant de devoir contenir son aggro ou pas, ou si finalement ça demande juste un travail d'observer une jauge qui se remplit et
regarder la donne à côté. Ouais, voilà. Voilà, est-ce que je suis pas trop.
Ça demande des add-ons, quoi. Enfin, maintenant ils l'ont fait apparaître, mais c'est assez mal implémenté dans l'interface. Ouais. Donc il y a des chances que l'aggro perde peut-être dans son importance. Mais dans ce cas-là.
Ça sera mieux amené, je pense.
Dans ce cas-là, c'est peut-être se recentrer sur les healers, entre guillemets, sur les dégâts de zone, sur les dégâts sur tous les gens. Ou je sais pas, devoir limiter son aggro.
Mais qui dit diminuer l'importance de l'aggro et les tanks alors ? Ça va pas avoir un effet.
Les tanks, voilà, je sais pas, je vois pas trop l'intérêt d'être tank dans ce cas-là, DPS, quoi. Donc,
c'est un peu flou, hein.
Je pense qu'ils ont quand même des.
Non, je pense qu'ils vont pas le supprimer ni quoi que ce soit, mais je pense qu'ils vont l'amener autrement. Enfin.
Il faut voir comment ils l'amènent aussi, c'est ça le truc. Mais vu qu'on a aucune info, pour le coup, on ne peut que perdre
des suppositions. En tout cas, ça a été dit, ils ont dit, quoi. Ça pourrait perdre de son importance. Ils aiment pas du moins comment ça fonctionne aujourd'hui. Donc peut-être que ce soit plus visuel, peut-être que les boss crient « Attention, je vais bientôt te casser la tête », genre.
Oh, ça me rappelle encore un add-on. C'était quoi l'add-on ? Ça te criait dans les tympans « Attention, il est aggro !»
Tu fais très bien la donne. Tu devrais le faire plus souvent.
Merci.
Je vois pas de quelle donne tu parles en tout cas, mais enfin ça doit être un truc qui doit être fait pour.
C'est Deadly Boss Mode.
Non, Deadly Boss Mode, il s'occupe des.
Il gueule pas des. Mais si je.
Oui, mais il crie toujours Deadly Boss Mode, mais c'est, pas, c'est pas pour ton aggro, c'est pour.
Pas pour l'aggro, mais pour dire il a engagé. Ouais. Attention.
Passons cet intermède adonien et. Prochaine news qu'on a eu sur le chat Twitter, c'était, et là je suis très content de vous le dire, que Blizzard trouve que le système actuel des emblèmes est trop complexe et est trop contraignant, et qu'avec du recul, ils auraient préféré un système avec deux types d'emblèmes. Souvenez-vous un petit peu de ce que j'ai pu dire le mois dernier durant un certain débat. Deux types d'emblèmes, celui du tiers actuel et celui du tiers précédent,
ouais.
Et je le dis...
Il avait raison.
J'avais raison sur ma manière de voir les choses, ouais. Et j'en suis très content. Florent, lui, n'était pas d'accord, me semble-t-il, sur ce point-là. Donc, je vais lui laisser la parole.
Je pense que là, pour le coup, comment il l'amène, je pense que c'est entre nos deux façons de voir. Ils veulent changer, mais toi, tu peux quasiment les supprimer, si j'ai bien compris.
Ah, donc, pas du tout, j'ai jamais dit ça. J'ai dit que je trouvais qu'il y avait trop d'emblèmes. Je ressortirai cette partie-là de l'épisode précédent.
Comme il retourne sa chemise, tu sais.
C'est vrai, regarde, il dit « pas du tout ». Je suis tout à fait d'accord avec Blizzard, je préférais qu'il y ait deux types d'emblèmes.
Je sais pas que je suis d'accord, mais bon. Enfin, bref.
Bon, c'est vrai que pour ceux qui débutaient et qui voyaient...
Mais c'est surtout que tes emblèmes précédents n'avaient plus aucun intérêt. Voilà, je veux dire...
L'emblème d'héroïsme, de conquête, de machin, de trucs. Tu ne savais plus de quel était...
Surtout qu'il y avait une multiplication des vendeurs aussi, absolument alarmante.
Alors tu sais même pas où est-ce qu'ils étaient. Il y a des moments où il y en a un, ils étaient au tournoi d'argent.
Oui, aussi.
Et là, t'as Dalaran.
Enfin bon, voilà. Ouais. Simplification, on espère que ça arrivera à Cataclysme. Dans tous les cas, ils y pensent. Autre chose, le fonctionnement, alors ça par contre, pour le coup, j'avais tort dans ce que j'ai dit le mois dernier, et j'accepte, car on s'en frotte les mains. Mais il trouve que le fonctionnement des essais maximum pour les boss, que ce soit Algalon, enfin Algalon non, c'est en termes de temps, mais pour les boss de la Citadelle ou du Colisée, même Algalon finalement, n'a pas été concluant, parce qu'à la base c'était mis pour protéger les joueurs, d'eux-mêmes un petit peu, parce que les joueurs sinon ont été capables de jouer des nuits, des jours, des nuits entières. Donc c'était fait pour protéger les joueurs, mais les joueurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont contourné la limite et ils ont créé des rerolls, et des rerolls qui leur permettaient donc de faire plus d'essais au final sur les boss. Donc,
comme quoi Blizzard prend soin de votre santé.
Ouais, mais finalement Blizzard abandonne un peu parce que là ils voient pas trop comment s'en sortir. Ouais. Et dans le futur, en fait, le système risque surtout d'être limité à des boss optionnels pour éviter ce fléau un petit peu, sans faire de mauvais jeu de mots avec
c'est
les citadelles.
Mais farming,
ouais, voilà, c'est les gens qui vraiment vont jouer beaucoup trop. Donc moi je trouvais que c'était intéressant comme système, que ça de, mais effectivement j'avais pas pensé au truc des rerolls. Donc pour le coup je m'étais trompé. Autre news qui a été dévoilée, alors ce chat Twitter a été encore une fois très très comment dire fructifiant non. Il a été très fructifiant, ça veut rien dire.
C'est comme mon opacité.
Fructifiant.
Non.
Non plus Florent. Faisons tous les mots en flou ou en fru.
C'est qu'il y a beaucoup de...
Enrichissant.
Voilà, il a été très enrichissant. Avec un outil... Alors, ils ont parlé de l'outil de recherche de raid inter-serveur, mais il y avait des problèmes. Ils ont dit... Effectivement, ils aimeraient pouvoir créer le même truc que l'outil de recherche de groupe, mais en raid. Ouais. Mais ça pose des problèmes, tout d'abord techniques, d'amener autant de joueurs dans des instants, je suppose.
Ouais. Et, déjà que ça laguait, hein, à la base.
Surtout, mais aussi des problèmes moraux, entre guillemets, avec ce qu'on appelle familièrement les loot dramas, donc les problèmes un petit peu, les personnes qui pleurent après ne pas avoir eu leur loot en raid. Effectivement, si c'était inter-serveur, bah, y en aurait beaucoup plus, quoi, parce que finalement, qu'est-ce que je m'en fiche.
Il pourrait pas se plaindre que l'autre est ninja.
Ah là, il pourrait pas lui faire une réputation à Dalaran en floudant le.
Ah, t'as les trucs, et c'est un ninja, il faut pas aller avec lui, il est pas gentil.
Hein, toi aussi, t'adores ces trucs-là sur le canal commerce. Voilà. Enfin bref, il y a eu ce problème-là qui a été posé. Donc, espérons le voir apparaître à Cataclysme, mais il y a toujours des complications auxquelles on ne pense pas forcément, mais qui existent bien. Ça sera tout pour la 3.3. Non, pardon, pour le chat Twitter. J'ai n'importe quoi. Ce sera tout pour le chat Twitter et on passe aux news de Cataclysme. Ne partez pas tout de suite, car on va parler surtout d'une partie technique tout d'abord. Donc, ça va être du Cataclysme technique.
On spoil pas vraiment.
Non, vraiment, il n'y a pas de spoil, quoi. C'est seulement sur les fonctionnements de Cataclysme. Donc, vous pouvez rester. Je vais même pas vous donner de temps de fin de cette partie parce que franchement, il y a rien d'énorme. Il y a rien à ne pas savoir. Et on va même pas parler d'histoire, quoi.
Voilà.
Cataclysme, partie technique, les changements pour les caractéristiques. Alors là, ça va être une refonte très profonde de toutes les caractéristiques du jeu, visant au final à simplifier son système. Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est que pour simplifier le système des caractéristiques, on a une refonte qui est très compliquée, je trouve. Elle est très très compliquée, cette refonte.
Ah, c'est très mathématique.
C'est pas mathématique, mais disons que s'il y a vraiment beaucoup d'informations et vraiment quand il y a une caractéristique qui transforme
autre
chose.
C'est pour l'esprit mateux.
Ah oui, voilà. Donc vous allez voir, c'est une refonte qui est un peu lourde à entendre. Donc je vais essayer d'avancer assez vite sur les changements techniques pour qu'on puisse peut-être en discuter après. Donc tout d'abord, les caractéristiques qui vont rester sur l'équipement, qui vont rester en jeu, mais qui vont être surtout visibles sur toutes les pièces d'équipement. Tout d'abord, l'endurance. Donc l'endurance va être une caractéristique qui va rester, ça paraît un peu évident, mais il y a quand même des caractéristiques qui nous paraissent peut-être évidentes qui vont disparaître. Ouais. Donc il y aura plus d'endurance pour tous ceux qui ne portent pas de plaque. Ça rejoint un débat qu'on avait eu il y a quelques mois sur le fait qu'à Cataclysme, les développeurs ont envie de ne plus avoir des tanks qui tombent qui doivent être overhealés. Et ils voulaient en fait diminuer les soins, entre guillemets, en termes de...
Ils veulent faire le heal plus intelligemment, en fait.
C'est ça, ouais. En fait, ils veulent éviter qu'il y ait des heals qui puissent healer une mono-touche. Grande partie de la barre et qu'ils soient mono-touche. Et ils préfèrent qu'il y ait beaucoup de petits heals, quoi.
C'est ça.
Donc au lieu de...
Enfin, qu'ils puissent garder leur mana, que ça soit mieux géré, entre guillemets, qu'il y ait plus de challenge.
Voilà, donc il y aura peut-être un peu moins de réactivité, dans le sens où on mourra moins vite, normalement. Hein. On devrait mourir moins vite, vu que tout le monde aura plus d'endurance.
Voilà,
mais aussi, ça va être plus difficile de remonter la vie de quelqu'un. Hein. Vu qu'il aura beaucoup d'endurance, s'il est à 50% de sa vie, ça va pas demander un seul heal pour le remonter, quoi. Certainement pas. En endurance, donc, l'écart plaque-non plaque sera moins grand, on vient de vous le dire. Autre caractéristique qui restera sur l'équipement... Autres caractéristiques qui resteront, la force et l'agilité. Leur fonctionnement restera globalement inchangé, la force donnera de la puissance d'attaque et l'agilité donnera du bonus au coup critique. Mais en plus... Comment ?
Et la puissance d'attaque ?
Et la puissance d'attaque, c'est le changement selon la caractéristique majeure de la classe. Donc pour un guerrier, ça serait la force, pour un voleur, ça serait l'agilité.
C'est ça.
Chaque point de force ou chaque point d'agilité donnera en général, ça dépendra après, ça sera rééquilibré avec des talents et peut-être selon les classes, mais ça donne en général 2 points de puissance d'attaque supplémentaire. Vous allez voir que la puissance d'attaque est modifiée, donc gardez ça en tête. Aussi, ils ont annoncé que le bonus au coup critique de l'agilité sera peut-être revu à la baisse. Ça rejoint aussi les problèmes qu'il y a eu avec cette extension où le taux de coup critique et le bonus au coup critique est monté trop haut quoi, à cause de l'équipement. Donc ne vous attendez peut-être pas à du 40-50% de coup critique à l'extension. Non. Je pense qu'on ne pourra plus jamais les atteindre, ces bonus-là. Mais quand on voit qu'il y a des classes qui s'appuient vraiment beaucoup dessus, comme les mages, on ne peut pas non plus retomber à un truc à 10-15% de coup critique. Non, donc,
surtout les chasseurs qui en ont énormément.
Voilà, aussi les chasseurs. Donc, en tout cas, en termes d'agilité, ça sera diminué. Mais pour les autres classes, normalement, on pense que non. Ouais. Autre classe qui restera sur l'équipement, mais qui sera beaucoup modifiée, l'esprit. Donc l'esprit, maintenant, out pour tous les faiseurs de dégâts, ça sera exclusivement pour les soigneurs. Donc l'esprit, maintenant, pour les mages, pour les chasseurs même. De toute façon, les chasseurs n'ont plus de mana, mais pour les mages et pour les faiseurs de dégâts, démonistes, etc., etc., plus d'esprit. Maintenant, ça sera exclusivement pour les soigneurs. Et évidemment, il y a une recherche de solutions pour des classes qui sont, par exemple, comme les druides d'équilibre ou les chamans LM, qui ont besoin de se stuffer avec de l'équipement de soigneurs, mais qui sont des faiseurs de dégâts.
C'est ça.
Là, évidemment, bon, ils recherchent des solutions en ce moment, mais ne vous en faites pas. Normalement, il devrait y avoir des solutions qui seront trouvées.
C'est pour ça que, du coup, le heal va être remanié un peu.
Bah, aussi, oui, parce que l'esprit va apporter beaucoup de mana, et aussi une règle va être modifiée, la fameuse règle des 5 secondes.
C'est ça.
Il y avait une règle qui était assez connue, entre guillemets, qui disait que on récupérait la mana que toutes les 5 secondes. Donc fallait ne plus incanter pendant 5 secondes pour récupérer du mana. Mm-hmm. Ça devrait être vu. Ça devrait être vu dans l'extension. Et en parallèle, plus aucun buff ne devrait donner d'esprit maintenant, puisque finalement ça sera une caractéristique réduite à seulement une catégorie de joueurs. Plus aucun buff générique, donc par exemple la prière d'esprit ne devrait plus donner d'esprit. Pareil pour la marque du fauve, etc. L'intelligence sera une caractéristique qui restera encore sur les équipements. Elle donnera de la puissance des sorts, grand changement. Maintenant elle donnera directement de la puissance des sorts, mais par contre elle donnera beaucoup moins de mana. Donc les barres de mana, maintenant on va aussi oublier les nombres folichons énormes de mana. Normalement on devrait se retrouver avec, en proportion du coût des sorts, moins de mana.
Voilà.
Donc peut-être aussi une gestion de la mana pour les faiseurs de dégâts, je sais pas. On va peut-être retomber un petit peu sur du Burning Crusade aussi. Il y avait quand même une gestion de la mana qui était un peu plus importante à Wrath of the Lich King, on l'espère.
C'était... Ah bon, il y a une... On doit générer notre mana quand on est démoniste. Ouais, je viens d'apprendre quelque chose.
Ouais, là il se la pète, hein. J'espère. Attends, il n'y a pas un truc qui dit genre les démonistes ne pourront plus récupérer de mana, non, j'espère.
Avec connexion, connexion sera supprimée, je vais mourir là.
Mais effectivement, il y a des classes qui n'ont jamais eu besoin, entre guillemets, de regen mana. Mais moi, je pense aux mages, qui est une vraie usine à mana.
Sans mana, ils sont morts.
Puissants.
Voilà. Donc, là, effectivement, on va peut-être retomber sur des trucs qui nous demanderont un cycle consumable, que personnellement, j'ai pu utiliser depuis très longtemps. Les scores de toucher et de critique resteront sur les équipements. Le fonctionnement global restera inchangé. Mais ces scores devraient être comme le coup critique, est-ce que je vous raconte, c'est coup critique dont je parle, pardon, devrait être beaucoup moins élevé à Cataclysme, même avec un équipement de très haut niveau. Donc on vous le dit, même avec de l'équipement ICC, etc., on ne retrouvera pas des taux de critique et de toucher absolument fous, faramineux. Donc ça, c'est une certitude.
Ouais.
La hâte restera existante, c'était une caractéristique qui était apparue avec Burning Crusade, mais qui n'avait pas été très utilisée à l'époque. Maintenant, elle a grandi avec Wrath of the Lich King, et maintenant est très importante. Elle restera, et elle permettra en plus de regagner des ressources plus rapidement pour les corps à corps. Donc que ce soit de l'énergie pour les voleurs, des runes pour les chevaliers de la mort, normalement, cette hâte devrait permettre de regagner ses ressources plus vite. Et elle réduira peut-être les cooldowns de vos sorts, et même peut-être, ça c'est un peu une supposition, le cooldown universel, le fameux 1 seconde ou 1 seconde 5 de cooldown avant de pouvoir utiliser son prochain sort, et il sera peut-être réduit lui aussi. On peut s'attendre aussi à des scores de hâte qui resteront en dessous de peut-être 30%, quoi, parce que plus de 30% de hâte, ça deviendrait un peu énorme, et surtout je pense que...
Ça dépend la classe, mais c'est vrai quand même.
Ouais, non, ça resterait...
Ça serait
un peu beaucoup, quoi. autre caractéristique qui sera gardée avec l'extension. Donc vous voyez quand même qu'il y en a un bon paquet qui seront gardés, mais qui finalement seront repensés un petit peu. Le blocage qui, elle, fera partie des caractéristiques qui seront repensées. Donc pour le coup, les attaques bloquées maintenant affligeront 30% de dégâts en moins. Donc maintenant, out le blocage comme on le connaissait, maintenant ça sera 30% de dégâts en moins. Ces 30% pourront être modifiés via les talents pour certaines classes. On pense par exemple au guerrier, je pense que c'est quasiment évident que lui aura des talents pour modifier ce bonus. Donc 30% de base, et d'une manière générale, moins de coups seront bloqués, donc normalement le tank devrait se prendre beaucoup plus de baffes au final.
Mais quand ça va être compensé par l'endurance, pour le coup.
Bah oui, voilà, ça va être compensé par l'endurance, mais ça demandait aussi plus d'efforts peut-être aux soigneurs, mais un peu moins de, comment dire, d'aléatoire.
Voilà.
Puisque maintenant c'était un petit peu trop aléatoire le fait que si un tank se prenait une baffe, il perdait 75% de sa vie.
Ouais.
J'exagère peut-être un peu, mais c'était pas loin quoi.
Je pense que pour les DK, c'est vraiment très intéressant parce que le gros problème, c'est que ne pouvant porter de bouclier, ils étaient un peu.
Oui, c'est clair. Le blocage, enfin, voilà quoi, ils avaient un problème avec toutes les pièces de blocage. En même temps, ils avaient des pièces un peu particulières quand même qui leur étaient réservées. Mais bon, c'est vrai que ça facilite aussi pour Blizzard, je pense, la manière de faire tout simplement les équipements, quoi, les tables de loot pour toutes les classes, quoi. Autre caractéristique de défense, la parade, elle ne permettra plus d'éviter 100% des dégâts, et elle ne permettra plus non plus d'augmenter la vitesse de l'attaque suivante, donc vous voyez qu'elle a été aussi modifiée, mais à la place, une attaque parée entraînera une diminution des dégâts de cette attaque et de la suivante de 50%, du moins si la suivante n'est pas manquée hein, via de l'esquive. Donc ce fonctionnement évidemment pourra lui aussi vraisemblablement être modifié grâce à des talents. Donc on retient 50% de dégâts en moins sur l'attaque parée et 50% de dégâts en moins pour la suivante.
Voilà.
L'esquive, elle, ne changera pas normalement. Une esquive entraînera une diminution de 100% des dégâts. Mais par contre, le pourcentage d'esquive, lui aussi, sera très, très certainement revu à la baisse. Donc vous voyez une diminution massive de ses caractéristiques de défense pour un peu moins d'aléatoire dans le jeu. Autre caractéristique très connue qui restera en vogue, l'armure, dont son fonctionnement ne sera pas modifié, mais encore une fois, les bonus d'armure seront revus à la baisse pour mieux suivre la courbe de progression des équipements dans Cataclysme. Donc évitez aussi l'écart, un écart énorme entre les personnes qui portent de la plaque et les personnes qui ne portent pas de plaque. Donc normalement, la plaque ne protégera plus autant proportionnellement aux autres armes.
C'est-à-dire que ceux qui portent du tissu prendront moins de dégâts que...
Globalement, avec tout ce qu'on peut voir, ils deviendront plus résistants.
Quoi. C'est ça.
Les porteurs de tissu, mais aussi de cuir
et
de maille. Autre caractéristique, c'est une des dernières, la résilience continuera d'exister, mais par contre, elle deviendra totalement exclusive aux joueurs contre joueurs. Elle n'affectera plus que les dégâts des coups normaux et critiques infligés par les joueurs. Donc... si vous portez de la résilience face à un boss ou face à un monstre, ça ne fonctionnera plus. Ça ne servira à rien. Et enfin, dernière caractéristique qui sera visible sur l'équipement, je parle bien des caractéristiques visibles, la maîtrise, qui sera une nouvelle caractéristique dont on va vous parler juste après cet exposé sur le changement des caractéristiques. Caractéristiques qui ne seront plus visibles sur les objets. Donc là, on passe à une autre catégorie, la puissance d'attaque. Donc la puissance d'attaque, elle, ne sera plus sur les objets. Il n'y aura plus d'objets qui donneront de la puissance d'attaque. Ça sera une caractéristique qui sera visible seulement sur votre fiche de personnage. Enfin, du moins, qui restera vraisemblablement sur la fiche des personnages. Moi, je ne vois pas comment ils pourraient la mettre autre part. Elle sera donc sur les objets actuels remplacée par de la force et de l'agilité. Hein. Mais sachez bien que ça sera tous les objets qui seront modifiés, hein, du niveau 1 au niveau 85. Donc elle sera... normalement remplacé par la force et l'agilité, puisqu'on vous a dit, souvenez-vous, que la force et l'agilité donneront 2 points de puissance d'attaque pour chaque point correspondant. Et elle existera, par contre, quand même, on la retrouvera dans certains déclenchements d'effets. Donc, par exemple, on pense par exemple à un bijou. Un bijou pourra peut-être continuer de donner un bonus de 300 à la puissance d'attaque. Ça sera encore possible. La puissance des sorts, elle, sera remplacée par l'intelligence sur les objets, donc... out la puissance des sorts directement sur votre plastron, directement sur vos jambières. Il n'y aura plus ça sera de l'intelligence. Et on comprend donc pourquoi l'intelligence donnera beaucoup moins de mana, hein, puisqu'on devrait avoir beaucoup plus d'intelligence comparé à aujourd'hui. Une exception, cependant, une exception, il y aura normalement les armes des lanceurs de sorts qui auront de la puissance des sorts. Donc ça va donner une importance beaucoup plus forte à ces objets qui auront un statut particulier, un petit peu comme les bijoux aujourd'hui qui ont un statut particulier, bah, pour les lanceurs de sorts, leurs armes auront un statut particulier, c'est beaucoup particulier.
C'est déjà clairement l'objet qui a le plus de puissance des sorts.
Déjà aujourd'hui, on voit qu'il y a un gouffre énorme entre les autres. Et puis même, c'est un peu le genre d'objet où il n'y a pas beaucoup d'autres choses que de la puissance des sorts. C'est vrai. Donc je pense que c'est pour donner une importance vraiment... un petit peu un statut, quoi. Être fier de son arme pour un lanceur de sorts et plus se dire, bon, finalement, si cette dague me passe sous le nez, c'est pas grave. Vraisemblablement, évidemment, la puissance des sorts restera visible sur la fiche des personnages. Et enfin, dernière caractéristique qui ne sera plus visible sur les objets, mais qui existera toujours, ça sera la pénétration d'armure. La pénétration d'armure qui avait fait son apparition aussi à Burning Crusade, me semble-t-il, avec les arènes. Bien vraisemblablement, elle sera aussi remplacée par la force et l'agilité, puisque la force et l'agilité donnent de la puissance d'attaque et que la puissance d'attaque augmente les dégâts, la pénétration d'armure augmente elle aussi les dégâts finalement en diminuant les défenses de l'ennemi. Donc je pense que ça va être remplacé par la force et l'agilité. Et son fonctionnement, en fait, le fonctionnement qui subsistera via les talents, il y aura un fonctionnement de la pénétration d'armure qui devrait subsister dans les talents et certaines capacités. Donc par exemple, un talent qui vous dira diminue l'armure de votre ennemi de 15%. Donc en cela, la pénétration d'armure existera toujours, son fonctionnement. Vraisemblablement, cette caractéristique ne devrait plus être visible sur la fiche du personnage, pour l'alléger. Enfin, vous allez voir qu'il y a aussi des caractéristiques qui vont disparaître complètement, et c'est là où vous commencez à crier, hein, c'est là où vous dites « Ah !» ça fait peur, hein. Donc on se souvient de la BlizzCon où les développeurs disaient les fameux gun pour chaque caractéristique qui disparaissait. On a tout d'abord la MP5, la mana par 5 secondes, qui sera remplacée par l'esprit. Et donc là, évidemment, tous les lanceurs de sorts offensifs se disent « Mais attendez, comment je vais récupérer ma mana, moi ?» Et bah apparemment, ça sera par d'autres moyens, mais certainement plus par l'esprit, puisque l'esprit sera réservé aux soigneurs, et pas par la MP5, puisque cette caractéristique va disparaître. Donc, les lanceurs de sorts offensifs auront d'autres moyens pour régénérer leur mana, et que les paladins sacrés et chamans de restauration se rassurent, ils profiteront aussi de l'esprit d'une manière beaucoup plus fonctionnelle qu'aujourd'hui. Autre caractéristique qui va disparaître, qui va disparaître complètement, la valeur de blocage du bouclier. Vraiment, il y a seulement les tanks, je pense, qui connaissent cette caractéristique. C'était la valeur associée à chaque bouclier de blocage. Donc cette valeur, en fait, va être fusionnée avec le score de blocage. Et comme les dégâts absorbés maintenant seront toujours proportionnels aux dégâts reçus, il n'y a pas de problème à supprimer cette caractéristique qui, finalement, ne voulait pas dire grand-chose, quoi. Enfin, je veux dire, elle était assez complexe à comprendre. Si on s'y intéressait pas un petit peu. Caractéristiques, alors là on rentre dans les caractéristiques très importantes, la défense, la fameuse défense, la barre des 400 points de défense qu'on est tous fiers d'avoir atteint.
Au revoir.
Et ouais, elle n'existe plus, elle va disparaître à Cataclysme, parce que les tanks tout simplement ne devraient plus pouvoir subir de coups critiques en posture défensive. Donc dès lors qu'ils seront en posture défensive, ils pourront recevoir 0% de coups critiques normalement de la part des boss. Ça devrait pas être vrai pour les autres classes, mais plus de défense. Finalement, c'était un système qui devait pas fonctionner très très bien. Donc, vous n'en retrouverez plus, normalement, ni dans votre fiche de personnage, ni sur des pièces d'équipement. D'armes. Autre chose qui va totalement disparaître, les compétences d'armes. Alors là, ça y est, hein, dépêchez-vous de faire vos faits qui demandent d'atteindre 400 en puissance d'armes, parce que normalement, adieu à toutes les barres de 400 points. On devrait normalement ne plus avoir à s'entraîner pour maîtriser les armes disponibles. Donc par exemple, moi je suis mage, j'ai les dagues, les bâtons et les épées. Et bah je n'aurais même pas les épées à une main. Oui, les baguettes, mais les baguettes c'est pas le même slot. Oui. C'est pas le même emplacement. Donc je n'aurais plus à m'entraîner pour maîtriser une de ces armes. J'aurais directement le niveau maximum correspondant à mon niveau évidemment, en termes de compétences d'armes. Et il semblerait que cela signifie aussi la disparition des maîtres d'armes.
Donc, c'est nul ça, je suis pas contente.
On pleurera tous. Ouais. Quand même, moi j'ai des bons souvenirs de certaines bandes dessinées, tu sais, qui montraient le mec qui devait apprendre à se servir d'une épée.
Oui.
Tu vois, et je sais plus dans quoi c'était. Tu vois de quoi je parle, Florent, ou pas du tout?
Pas du tout.
Pas du tout. Ah zut, c'était pas de Gladiator, c'est... bon.
Bref.
Passons. Et c'était... Le gars allait voir un maître d'armes, il lui disait « Bon, je veux apprendre à utiliser une épée. » Lui, il lui montrait, il prenait l'épée, il lui dit « Bon, tu vois, le bout pointu, tu l'enfonces dans l'ennemi, tu vois. » C'était super marrant. Donc bon, là, ces BD auront un petit peu un goût amer maintenant. Adieu Wompeng, ou je sais pas comment il s'appelait dans Stormwind.
Ouais. Mais je trouve ça un peu... Là, pour le coup, je suis un peu déçue parce que... moi, j'aimais bien... Il y avait de la compétition à pouvoir maîtriser toutes ses armes et aller dans les différents
points. Mais l'intérêt, quoi, je veux dire.
Je sais pas,
il n'y avait aucun intérêt à ses compétences d'armes, quoi. Au lieu de, à part te faire passer 4 heures à taper des mobs.
Moi, je trouve ça marrant.
Moi, je trouve pas ça drôle. Et enfin, dernière chose qui va disparaître, qui n'est pas tout à fait une caractéristique, mais qui pourrait en faire partie, ce sont les rangs des sorts. Donc vous vous souvenez évidemment, votre parcours, vous qui êtes niveau 80 ou qui êtes en train de monter un personnage, et joncher tous les deux niveaux de un petit peu de stop entre guillemets chez votre maître de classe, et bien maintenant normalement les sorts évolueront automatiquement lors des passages de niveau, donc vous n'aurez plus à passer tout le temps chez votre maître de classe, puisqu'on n'aura plus besoin d'acheter les rangs supérieurs, quoi. Donc notre porte-monnaie remercie cette modification. Notre grimoire aussi, avait 222 000 sorts dedans. Par contre, il semblerait, enfin, ça n'a pas été confirmé, mais il semblerait qu'il faudra quand même acheter tous les nouveaux sorts. Dès lors que vous débloquerez un nouveau sort, vous devrez quand même aller l'apprendre. Je pense, oui.
Bah,
je ne vois pas ça comment ça pourrait se faire autrement. Mais bon. En tout cas, une fois seulement, puis après, c'est bon. Quelques petites choses à savoir en plus qui sont en relation avec les caractéristiques. Tout d'abord, les scores de combat. Les scores de combat, donc je vous parle ici du toucher, du critique, voilà, etc. Évidemment, vous saviez qu'il y avait des caps à certaines caractéristiques, des niveaux, mais en défense, il y en avait un aussi. Bien, normalement, aujourd'hui, adieu les fameux caps.
C'est bien ça.
Parce qu'il devrait être normalement impossible. Il sera très très difficile, voire impossible d'atteindre un cap. Vu que nombre de caractéristiques resteront assez basses, entre guillemets, on ne devrait pas atteindre des niveaux extrêmes. Et donc, le fameux cap touché, que à chaque fois on nous disait, il faut absolument que vous ayez votre cap touché, parce que c'est ce qui augmente le plus votre DPS, bien maintenant, il va falloir réfléchir un peu plus et se dire, ah, le touché c'est intéressant, mais aussi le coup critique. Hein, en termes de prix, j'ai envie de dire, pour mettre sur son équipement. Le système de retouche aussi. Alors, le système de retouche, ça va être une nouveauté. Ça va être un système via les professions qui va vous permettre de transformer les caractéristiques dont vous ne voulez pas sur une pièce d'équipement. Par exemple, moi, je suis mage. Je vois de la hâte sur une pièce d'équipement qui vient de tomber, qui m'intéresse vraiment. Cette pièce, elle est puissante, etc. Elle est beaucoup plus puissante que ce que j'ai, mais la hâte, vraiment, j'en ai rien à faire. Et bah, avec le système de retouche, je pourrais transférer 50% de la caractéristique de base, donc de la hâte par exemple, en critique, en coup critique. 50% seulement, mais ça reste intéressant si vraiment c'est une caractéristique qui me barre totalement ou que j'ai vraiment trop. Ce système, normalement, ne sera pas disponible par contre pour certains transferts. On pense par exemple à l'endurance vers la force, donc ça sera très certainement comme des recettes à apprendre pour transformer telle caractéristique en telle autre. Enfin, concernant les caractéristiques. Enfin, on termine cet exposé. Dernière chose à savoir, les gemmes. Vu les changements dans toutes les caractéristiques, déjà de nombreuses gemmes vont disparaître, hein, celles qui augmentent la pénétration d'armure, la défense, etc. Ces gemmes vont disparaître, et d'autre part, d'autres gemmes vont voir leur couleur changer par rapport à la nouvelle fonction qu'ils vont avoir. Par exemple, l'intelligence qui était, me semble-t-il, bleue, va peut-être devenir rouge vu que ça va plutôt augmenter les dégâts.
Ouais.
Donc les couleurs vont changer selon les fonctions des caractéristiques. Voilà un petit peu l'exposé très long que j'ai fait de ces changements. Vous voyez que c'est très compliqué, mais au final ça devrait vraiment simplifier le système. Donc il va falloir juste l'adopter pour nous les anciens joueurs qui sommes habitués au fonctionnement un petit peu, dont on s'est un petit peu habitué à ces choses-là, pénétration d'armure, puissance des sorts, etc. On est habitué, nous. Mais effectivement, pour un nouveau joueur ou pour quelqu'un qui s'intéresse un petit peu moins au jeu, peut-être un peu
ou
plus
pas
compliqué.
Justement, quoi. Ceux qui vont arriver...
Bah, eux, je pense qu'ils vont avoir un truc qui va être beaucoup plus simple, quoi.
Bah oui, ceux qui n'ont pas connu, justement, tous les changements, tous les trucs comme ça, ils vont arriver directement là-dedans et ça va être plus simple que nous, on va se dire, bon, attends, alors, la hâte, c'est ça, le critique, qu'est-ce que ça fait, je comprends plus rien.
Non, et puis je pense que ça va être plus simple aussi d'expliquer, quoi, parce que va expliquer la différence entre parade, esquive, bon, là, ils existeront toujours, finalement, mais je veux dire... J'ai l'impression que ça va être un peu plus simple de les différencier. Hein. De par leur fonctionnement, le blocage qui bloque seulement 30%, l'esquive qui fait que tout simplement t'esquives un coup donc tu prends pas de dégâts, la parade qui est un petit peu, on se dit ouais, parade, tu fais un jeu avec ton épée, bon tu peux parer deux coups d'affilée.
Le blocage.
Voilà, c'est un petit peu plus. Intuitif. Comment dire, intuitif, voilà. C'était le mot que je cherchais, je trouve que c'est le mot qui correspond parfaitement. Florent, je te demande pas ton avis, je suis quasiment certain que tu trouves ça génial, non?
Il y a évolutions de caractéristiques qui m'intéressent beaucoup en tant que démoniste. Mais même sur le cas général, je trouve que vraiment ça simplifie certains trucs parce que il y a des fois on était certaines stats qui étaient assez équivalentes, mais on savait pas celle-là, il y a peut-être ça qui est mieux, mais peut-être ça. Maintenant, ils ont simplifié que tout soit mis dans une. Enfin, ouais, c'est largement mieux.
Il y avait aussi des trucs comme, je sais pas, résilience, choisir entre la résilience ou plutôt des techniques de défense en joueur contre joueur, ou l'esquive, ou... Je veux dire, et même surtout en PVE, quoi, enfin je veux dire, en joueur contre environnement, la résilience avait pris une certaine place aussi.
Oui, oui.
Ça servait vachement, alors que c'était pas du tout fait pour ça, et ça se cumulait avec d'autres techniques de défense.
C'est là... les magouilleurs qui faisaient ça aussi. C'est pour ça que je disais, les esprits mateux, ils ont vraiment compris le truc. Là, pour le coup, ça va tous les... Ça a tout chamboulé.
Je pense que ça restera quand même, le théorie-crafting gardera une place importante.
Ça. Mais justement, ça va être EP, je pense, du coup, la théorie-crafting.
Ouais, tu voulais dire quoi, Florent?
Le théorie-crafting, enfin, ils vont changer, vraiment. Pour le coup, ils n'auront pas de cap à calculer, ou alors, veulent vraiment savoir c'est quoi le maximum impossible, je pense qu'ils feront, c'est un peu... Oui. Ils adorent ça, c'est un peu...
Enfin, on sera plus obligé d'être matheux, quoi, pour réussir à faire du DPS. Différent... Ou à jouer,
ou pas.
Tout simplement.
Je sais pas.
Voilà.
Je suis un peu sceptique.
Ouais, déjà, rien que du CMD cap, moi, ça m'énervait en fait. Retenir des chiffres que faut j'atteigne.
Oui, c'est ça. Enfin, t'avais des sites en fait. Qui t'aidaient.
À chaque fois, t'étais obligé de composer avec tes gemmes, etc. pour avoir ton cap ou pas, etc. Enfin, bref. Assez compliqué.
Oui,
évidemment, on a parlé des gemmes, mais on a oublié de parler.
Les gemmes, moi, je me.
Les enchantements.
Oui, voilà, je voulais parler des enchantements aussi. Enchantements, nourriture, etc. Il y aura beaucoup de choses qui vont disparaître, qui vont être modifiées, suivant finalement tout simplement la modification dans les caractéristiques. Hein. Ça c'est une certitude. On vous a parlé d'une caractéristique qui allait apparaître tout à l'heure, la maîtrise. Donc c'est une nouvelle caractéristique, et avec elle, cette caractéristique en fait accompagne un changement un peu plus important, un peu plus global aux arbres de talent. Donc globalement, ça va être quoi ces changements dans le fonctionnement des arbres de talent? En fait, ceux-ci vont devenir plus intéressants en ce qui concerne la diversification des spécialisations, et normalement vous ne devriez plus être obligé de choisir absolument un arbre de talent précis, ou de moins d'aller chercher, par exemple, moi je suis mage-feu, mais je dois absolument aller chercher 15
arcane.
Points dans la branche arcane ou 10 points dans la branche givre. Je donne des exemples complètement faux, hein. ne me dites pas que je suis un mauvais mage pour ça. Mais,
c'est des exemples. Comme
voilà,
ça.
Des exemples pris à l'emporte-pièce, mais...
C'est comme les chasseurs survie qui doivent aller chercher dans la branche précision.
Voilà, quoi. Donc normalement, vous ne devriez plus être obligé de faire ça. Pourquoi ? En fait, ces changements consistent en trois bonus qui augmenteront. Ces bonus-là augmenteront selon le nombre de points que vous aurez dépensé dans votre arbre de talent. Donc, les deux premiers bonus, du moins, augmenteront selon le nombre de points que vous aurez dépensé dans un arbre de talent. Et quand je parle d'un arbre de talent, c'est une branche précise. Hein. Par exemple, pour un mage, ça serait dans la branche feu. Donc, plus j'aurai mis de points dans la branche feu, tout d'abord, j'aurai une augmentation passive de mes dégâts. Et pour les soigneurs des soins et pour les tanks des chances de survie, donc selon l'aspect. Donc je suis mage, j'aurai une augmentation des dégâts. Caroline est prêtre, spéil, elle aura une augmentation de ses soins passifs, et Florent peut être un chevalier de la mort givre, lui il aura une augmentation de ses chances de survie.
En plus t'as bien choisi parce que j'ai un reroll prêtre heal.
Florent, il me semble que c'est quoi ton reroll toi? Si tu en as un d'ailleurs.
C'est un heal.
Ah,
c'est
bon,
un
mauvais choix.
Bon, c'est pas grave, j'ai
deuxième bonus, l'augmentation passive, encore une fois, d'une caractéristique liée à la classe et à la spécialisation. Donc par exemple, pour les prêtres, un prêtre encore heal, je prends l'exemple, le prêtre heal, lui, une caractéristique principale de sa classe et de sa spé, ça sera l'esprit. Et via les points de talent qu'il aura dépensés dans son arbre de soins, et bah l'esprit, la régène liée, la régénération des points de mana liés à l'esprit sera augmentée. Donc un point d'esprit, au lieu de rendre 5 de mana, bah, il rendra 6 de mana, ou il rendra 7 de mana, ou 8 de mana, selon le nombre de points investis dans la branche sacrée. Donc ça c'est pour les prêtres, pour reprendre l'exemple avec les mages, ça serait peut-être le pourcentage de coups critiques, ou l'intelligence, ou le bonus ou la puissance des sorts accordé par l'intelligence, etc. etc. On peut imaginer beaucoup de choses, donc ça sera un fonctionnement plutôt passif. Ça c'est deux fonctionnements passifs qui se verront pas, mais qui augmenteront finalement pour les monospés, entre guillemets. Hein, quelqu'un qui aura fait un arbre avec 30 points et un autre avec 40 points, finalement il sera pas très avantagé par rapport à quelqu'un qui aura mis vraiment 60 points dans un arbre.
Donc les hybrides...
Les hybrides risquent de prendre un petit peu cher, quoi. Déblocage aussi, troisième bonus, et c'est là où la maîtrise intervient, déblocage d'une nouvelle amélioration qui sera unique à la branche de votre arbre de talent et qui sera améliorée via donc la maîtrise. Par exemple, je suis mage, et ben j'aurai une nouvelle... Enfin plutôt, pour prendre l'exemple du prêtre Hill, ça va être plus simple. Je suis un prêtre heal, et ben je vais avoir quelque chose qui va me permettre d'augmenter, quand je fais un soin par exemple instantané, et ben il y aura un déblocage d'une nouvelle amélioration liée à mon arbre de talent qui fera passivement, dès lors que je ferai un soin instantané, et ben il y aura aussi un soin sur la durée qui va être appliqué à ma cible. Pour un prêtre discipline, par exemple, qui lui est plus basé sur les techniques de protection des autres, lui, bah, par exemple, ça va être plus de points absorbés par son bouclier, etc. Donc là, c'est une amélioration passive, certes, mais une amélioration qui est vraiment très ciblée pour chaque classe et pour chaque spé, vraiment. Donc, on va très certainement voir 30 améliorations différentes. Hein. 10 classes, 3 spécialisations par classe, donc 30 améliorations uniques, qui donc seront améliorées elle, par la maîtrise et non pas par le nombre de points dépensés, me semble-t-il.
Oui.
Donc, on vous l'a dit, ça favorise un petit peu les monospés, dans ce sens qu'un second arbre de talent, ils l'ont dit en plus, si vous mettez par exemple 40 points en feu et 30 points en givre, et ben ça sera seulement les 40 points en feu qui seront pris en compte. Les 30 points en givre, on s'en fiche, ça vous apporte 0 points, ça ne sera pas du tout affecté. Donc ça sera seulement votre score maximal dans un arbre, qui sera considéré comme votre arbre attitré. Bon, par contre, les bonus, quand même, risquent d'être limités à 50 ou 55 points. Donc, par exemple, mon augmentation passive de dégâts, son maximum sera si j'investis 50 ou 55 points dans feu. Si j'investis 56, 57, 58, 59, 60 points, ça n'augmentera plus. Ça ne donnera plus de bonus, tout simplement pour ne pas se sentir obligé vraiment de rester dans l'arbre feu et mettre, par exemple, des talents complètement idiots qui ne servent à rien, quoi, dans ce cas-là. Donc, évidemment, il y aura quand même une certaine limite à ça et on vous permettra d'être un petit peu hybride, mais pas trop.
De toute façon, les talents qui ne servent à rien, entre guillemets, comme tu disais, vont être normalement supprimés ou remaniés.
Mais en fait, il y a un truc assez intéressant avec ça, c'est que ils avaient pris l'exemple, je crois, d'un mage. Enfin, moi, je reprends l'exemple d'un mage, du moins, je sais plus si c'était leur exemple, mais le mage qui a un truc, un talent qui lui dit, bah tiens, ce talent-là augmente de 1% vos dégâts pour chaque point que vous investissez dedans. Et un autre talent qui dit, ce talent augmente la durée de, applique une explosion sur votre ennemi.
Ouais.
Mais en même temps, si j'investis mon point dans l'explosion, qui est un truc un peu plus rigolo, qui est un peu moins passif, un peu plus palpable entre guillemets, et ben si j'investis un point sur ça, je sais quand même qu'il y aura une augmentation passive de mes dégâts, une augmentation passive de la caractéristique liée à ma classe,
ouais,
etc. Donc au final, je gagne quand même 1% de dégâts un peu.
Ouais.
Tu vois, il y a quand même un bonus en ça. Donc les talents qui étaient dits obligatoires, qui augmentaient seulement les dégâts, les soins sur le temps, etc., les trucs, les points invariants, devraient être un peu moins importants. Moi, personnellement, je pense, parce que j'aime bien le théorie crafting, qui restera quand même des arbres de talent.
Mais là, le théorie crafting, il va être...
Mais je pense quand même qu'il va rester des arbres, entre guillemets, comment dire...
Fixes, enfin, ouais.
Voilà, des arbres qui seront dits meilleurs arbres possibles.
Oui, je pense que aussi.
Qui associeront les trucs dits obligatoires et les... Et en plus, les bonus liés au changement aux arbres de talent, aux bonus aux augmentations passives. Mais bon, j'espère quand même qu'on va voir un peu plus de spécialisation qui était un petit peu invisible jusqu'à aujourd'hui. Ou du moins, pas très appréciée dans certains domaines. Par exemple, les spé feu en PVP, quoi, c'est impossible aujourd'hui. Pourquoi pas espérer peut-être de la spé feu en PVP un jour. Pour les mages. Florent, tu es bien silencieux depuis le début. Nous as-tu fait une syncope ou es-tu encore là?
Non, je suis encore là.
T'es encore là? T'es encore là J'ai l'impression qu'il est décédé, Florent, très bien.
Non, non, mais bah oui, je suis complètement d'accord. Ça, je me demande, est-ce que ça va permettre à que, comme vous avez dit, enfin, je pense, enfin, c'est vrai que c'est, moi, c'est le truc que, qui m'embête en fait avec les arbres de talent, c'est qu'il y a toujours tout le monde qui choisit un arbre de talent qui est le meilleur et tout le monde soit identique. S'il y avait un peu plus de...
Peut-être un peu plus diversifié.
Et voilà, et que ça soit avec un peu équivalent, et qu'après, c'est suivant plus comment tu aimes jouer, plutôt que comment tu peux être le plus fort. Ça serait intéressant. Quoi.
Paradoxalement, ils avaient dit aussi qu'ils aimaient pas le truc qui disait, par exemple, je sais pas, t'as investi tes 55 points obligatoires pour ta spé, et ensuite, ils aimaient pas le fait, par exemple, que parfois on disait, bon voilà, bah, il vous reste 10 points à investir, vous les investissez où vous voulez, parce que ça sert à rien. Et ils n'aimaient pas non plus le truc qu'on se dise, ils préfèrent qu'on fasse des choix dans le sens où on manque de points de, ouais, de talent que le fait qu'on se dise, oh putain, il me reste 10 points de talent, il faut absolument que je les mette dans mon arbre, quoi. Là, ils se disent, non, c'est pas possible de faire ça.
Ah, les points vont être précieux.
Voilà, quoi. Ils espèrent rendre les points précieux, du moins. J'espère qu'ils vont y arriver. La tâche n'est pas simple parce que, en termes d'idées, après, il faut avoir un paquet d'idées quand même pour remplir.
Il y a toujours des petits malins qui
30 branches, oui, il y a toujours des petits malins ensuite qui arrivent à détourner les problèmes. Mais c'est un problème pas simple, assez épineux. Moi, je trouve ce changement assez, assez intéressant. J'attends de voir les retombées. Ouais. C'est à peu près tout. Voilà, pour ces changements à cataclysme technique. Hein. Et on va passer aux changements de cataclysme qui, ceux-là, vont être beaucoup plus spoil, en fait. Hein. Va toucher un peu plus l'histoire comment dire ?
La configuration.
Voilà, la configuration spatiale de la zone, etc. Donc, c'est plus technique. C'est du spoil, donc si vous ne voulez pas entendre parler de cataclysme, nous vous proposons d'aller à la minute 1h, 28 minutes et 0 secondes. Voilà, donc si vous êtes encore là, c'est que vous souhaitez entendre les infos de cataclysme. Et toutes les infos de cataclysme de ce mois-ci viennent du chat Twitter, toutes les infos, les informations non techniques. Hein. Les techniques, je pense que vous en avez eu un bon paquet avant. Là, les infos un
vous
peu...
Vous en avez marre.
Voilà, je pense qu'on les a bien assommés, je crois, avec 4 heures d'infos.
Ouais, là, je crois qu'ils font dodo. J'espère voilà. Que tu vas les réveiller avec ta partie histoire.
Ah, bon, on verra ça après. Twitter, qui nous a dit... Enfin, plutôt les développeurs sur Twitter qui nous ont dit... tout d'abord, des infos un peu générales sur Cataclysme. Et tout d'abord...
Non négligeable.
Comment ?
Mais non négligeable.
Quoi. Non négligeable, c'est vrai, parce que ça donne des infos en fait sur l'histoire, sur ce qui va passer à Cataclysme. Je vais peut-être te laisser en parler en premier, Florent, décidément, dès que c'est Twitter, on te laisse en parler.
Ouais, c'est on se demande pourquoi. Donc la première info est en rapport avec les Maltaires de l'Ouest et de l'Est.
Ouais.
Vu que le roi Lich est mort, et que donc le monde d'Azeroth tombe dans le chaos avec un gigantesque cataclysme, ouais. les Maltaires seront donc enfin libérés du fléau.
Ce qui est logique en fait.
Oui.
Ce qui est logique, vu que le roi Lich perd disons son influence et que
c'est le bordel un peu
en Azeroth.
En fait, c'est assez intéressant de voir quand même l'enchaînement des extensions, quoi. Se dire bon voilà, il y a quand même eu un impact de Wrath of the Lich King sur le monde et on se dit qu'on n'a pas fait ça pour rien, quoi, le tuer pour rien. Non, vraiment, il y a une évolution. Les peurs de certains qui étaient comme quoi un MMO RPG est fixe. Et c'est ça qui forcément annonce sa mort. Voilà, ce qui forcément annonce sa mort, parce qu'il y a toujours un seul chemin pour arriver à la chose. Et bah là, non. Blizzard montre bien quand même sa capacité à évoluer et à modifier les choses. Et nous, évidemment, on adore ça.
Donc ça va peut-être redevenir Lordaeron.
Bah c'est voilà, la question qui se pose, c'est que bon, si ce n'est plus contrôlé par le fléau, les Maltaires, c'est pas vraiment le meilleur nom choisi.
Non.
Donc c'est vrai, mais alors... bien verdoyant, etc. Faudrait peut-être changer de nom.
Ah, j'allais le faire. Ah. Ou les, je sais pas, pommes
bah non,
de terre.
Non, leur terre.
Elle était nulle cette blague.
Les pommes de terre.
Non, passons. Blague pourrie, passons à la prochaine info. Il va donc y avoir l'apparition de sous-marins gnomes et de sous-marins gobelins comme moyen de transport entre guillemets public. Donc, comme les zeppelins qu'on a aujourd'hui, comme les bateaux, et ben là, on aura des sous-marins gnomes. Par contre, on ne sait pas s'il y aura le même type de véhicule ou le même type de monture dans l'extension. Hein. On avait entendu parler un petit peu dans les rumeurs de monture sous-marine. Peut-être un petit dauphin ou je sais pas.
Il y a déjà la tortue, mais bon.
Ouais, mais elle n'a pas.
Ça faisait des petits ouais. Trajets, là, je sais pas.
Voilà, donc peut-être des véhicules qui augmenteront la vitesse dans l'eau. Et moi, j'y crois. Personnellement, je crois aux véhicules sous l'eau. Ouais. Je crois aux véhicules sous l'eau, mais bon.
Bah, vu l'importance de l'eau dans cette expansion, je pense que ça peut être une possibilité assez importante.
Effectivement. On s'excuse en deux petites secondes de la qualité sonore peut-être des cinq dernières minutes juste avant. On s'est rendu compte que ça avait un peu baissé. On espère que ça n'a pas été catastrophique. Mais on va continuer, on espère que ça a réaugmenté. Prochaine news de Twitter, les terres foudroyées vont être grandement changées. Alors ça, on le savait déjà, mais on a eu quelques infos un peu plus précises. Donc il y aura une ouverture sur la côte donc à l'est, pour offrir une nouvelle expérience en fait dans cette zone.
Une nouvelle zone en fait.
Bah ouais, certainement, hein, peut-être des nouvelles quêtes, etc. qui vont apparaître. Parce que c'est vrai que les terres foudroyées, quoi, les quêtes qu'il y a là-bas sont pas... ouais, sont un peu, voilà, quoi.
C'est, elles sont redondantes, là-bas.
Bah, elles te demandent de tuer des animaux, quoi.
Pas grand-chose.
Elles te demandent de tuer des animaux. Peut-être d'aller faire le tour des bastions orques aussi, mais c'est tout. Enfin,
mais c'est pas très intéressant.
Non, c'était pas terrible. Donc, ça, c'est pour les terres foudroyées. En termes géographiques, il y a aussi, bon, je savais déjà, les 1000 pointes qui vont être submergées, mais ça a été répété. Et les salines, donc, qui vont devenir un lac. Un lac salé, donc. Autre changement général, avant de passer au changement gameplay, les zones de départ de toutes les races de base, entre guillemets, donc pas les nouvelles races, donc pas les gobelins et pas les worgen, toutes les races de base, devraient être quand même revues pour les rendre un peu plus attractives et intéressantes. Effectivement, contrairement à la zone de départ, par exemple, des Death Knight, des Chevaliers de la Mort, on se rend bien compte que... enfin, c'est vraiment...
Comment c'est dire, mou.
Oui, c'est vraiment pas le même type de départ. Quoi. On sent bien que c'est pas le même niveau technique. On sent bien qu'il y avait peut-être pas la maturité non plus lorsque ça a été créé, ces zones-là.
Et puis c'est basé sur le Roi Lich, alors comment ils vont faire?
Non, mais celles-là, ils vont pas la revoir. C'est les zones de tous les autres.
Ah, d'accord.
Les gnomes, les
elfes
nains,
de la nuit, les nains.
Les gnomes, les nains, tu vois, c'est les mêmes, c'est pas grave.
Non, c'est pas les mêmes.
Si, c'est les mêmes.
Les gnomes, ils sont plus petits.
Je parlais des zones de départ.
D'accord.
Je prends mon ton méchant dans ces cas-là.
Méchant.
Donc, mais par contre, ils ont prévenu, elles ne seront pas aussi travaillées que celles des gobelins ou des worgen. Mais on devrait peut-être voir 2-3 petites choses nouvelles. Ça fera plaisir lorsqu'on aura envie de redécouvrir un petit peu le jeu.
Ce qui n'est pas étonnant, parce que c'est quand même l'astuce avec cette expansion, c'est en même temps ils refont tout la charte graphique de l'ancien monde, qui peut-être amènerait d'autres joueurs, parce que le monde aura été refait et sera largement plus accueilli.
C'est vrai. Tout à fait vrai. On passe aux news concernant le gameplay. Et tout d'abord, bon, on vous en a parlé, avec les changements des statistiques à Cataclysme, et bah toutes les pièces d'équipement, tous les consommables verront leurs statistiques modifiées. On va pas revenir dessus. Vous êtes déjà assez saoulés, mais ils ont répété cela durant le chat Twitter. On vous le répète en tant que bon journaliste. Journaliste dont on reparlera tout à l'heure. Comme pour les sorties de Burning Crusade et de Wrath of the Lich King, les joueurs vont devoir changer d'équipement relativement rapidement, surtout en fait qu'il y aura seulement 5 niveaux à passer cette fois-ci, donc on va très certainement voir des joueurs, alors peut-être ceux qui ont le meilleur équipement vont peut-être attendre jusqu'au niveau 82, 83, mais ça devrait peut-être pas aller au-delà, quoi. Et alors que les plus mauvais comme moi devront très certainement changer dès la première zone peut-être. En termes de PVE maintenant, on sait qu'il va y avoir une ou plusieurs nouvelles instances dans les cavernes du temps, ça a été annoncé. Évidemment, je pense que ça ravit beaucoup de joueurs, quoi. C'est vraiment une des instances qui sont...
Elle marche, alors ça ne donne pas.
Ouais, ça marche vraiment. Alors maintenant, peut-être une petite estimation sur quelles instances on pourrait voir arriver. Hein ?
Ça, c'est dur à dire.
Bah, par rapport, en fait, le problème, c'est que par rapport au thème de Cataclysme, je vois pas trop ce
que
ça pourrait
être. Moi, j'ai une petite idée. Moi,
j'aimerais bien que ça soit sur la guerre des anciens.
Oh, il m'a piqué mon idée. oui, effectivement, la guerre des anciens, le combat contre Ashara, moi, je trouvais ça sympa. Même c'est pour un raid. Un raid,
je pense
peut-être.
C'est vrai que pour le coup, sur le sujet, ça peut être très intéressant.
Ça fait vachement penser à Archimonde, quoi. Archimonde, qui était quand même un passage, je veux dire, très important, d'ailleurs consécutif à cette guerre.
Ouais.
Il y a tous les héros, etc. Il y a
avec Malfu, avec Tyrande, Malfurion, pardon, Stormwage, Tyrande. Tyrande, Rush for Fur, c'est bien.
Ashara, oui.
Voilà, non, moi je vois ça, perso. Moi, je mise sur ça. Parole de Norlock.
Parce que je vois pas, puisque normalement c'est censé être des événements passés.
Peut-être la sortie des Nagas aussi, enfin le réveil des Nagas, mais ça c'était, c'était encore beaucoup plus tard, mais le réveil des Nagas par Illidan.
Tu veux dire Edemaïev, par exemple,
par rapport
à combattre Illidan,
ouais.
Avec l'œil de Sargeras.
Ça serait mieux en tout cas de faire revenir Illidan. Mais en tout cas, si y a le combat contre Ashara, normalement on devrait voir Illidan, hein, pas loin.
Normalement.
Qui à la fin s'enfuit avec des fioles. En courant comme ça, hein.
C'est ça.
Hein. Donc, moi je mise sur ça.
Je suis plus là.
Autre news PVE. Les Mortemines et les donjons d'Ombrecro pourraient ne pas être les seules anciennes instances qui seraient revues à Cataclysme. Bon, les développeurs ont annoncé qu'ils se focalisaient quand même sur les nouvelles instances avant tout, hein, donc ne vous attendez pas à une... Enfin, ce n'est pas une promesse, comme quoi il y aura d'autres instances qui devraient être revues à Cataclysme. Enfin, quand je dis revues, c'est remonter en termes de niveau, hein, entre niveau 80 et 85. Mais ils ont annoncé que ça pourrait ne pas être que les seules instances. Moi, je verrais bien Marodon, perso.
Mmh, oui.
Le retour de Marodon.
Karazhan.
Karazhan, oh non, oh, pas Karazhan, si, il n'y a Karazhan. Aucun rapport avec Cataclysme.
Mais Marodon, c'est trop déprimant, c'est comme s'il nous remettait, je sais pas, les profondeurs de Roche Noire.
Mais c'est pour ça, je pense en fait qu'ils vont revoir Marodon, parce que ça serait bien qu'il revoie une instance pareille, qui est assez difficile, quoi, entre guillemets. Mais elle était symbolique aussi, Marodon, hein. Ça a été une instance très difficile à une époque, qui reste quand même toute somme toute sympathique. Et pourquoi pas, s'ils revoient une instance, ils vont peut-être modifier les boss. Ils ont le droit de modifier le boss final de Marodon. Ça peut devenir. Je vous rappelle que Marodon va devenir une zone verdoyante. Enfin, pas Marodon, mais Désolat va devenir une zone verdoyante. On peut voir peut-être des boss.
Changements.
Voilà, peut-être plein d'élémentaires qui sortent de Marodon. Hein. On sait qu'il y en a déjà quelques-uns, mais peut-être une faille dans Marodon. On peut s'attendre à des modifications.
S'il change vraiment ouais, le style, ça peut être bien. Mais s'il la laisse quasiment telle quelle, moi je me pends avec mon cabotarnet. Hein.
Bon, elle est sympa cette instance quand même. Elle est longue, donc je pense dans tous les cas qu'il la raccourcirait.
Bon, on verra bien.
Moi je parie pas non plus. Le monastère Ikarvat, il y a eu un sondage qui était fait sur Jajip récemment.
Ouais, c'est
beaucoup de gens ont répondu qu'ils aimeraient voir le monastère Ikarvat hein, revu. Bon.
C'est pas celle.
Disons que cette instance s'inscrit quand même dans une suite de quêtes assez importante. Bon, on va me répondre que les Mortemines aussi. Donc, effectivement, les Mortemines, c'est la suite d'une longue. Enfin, le début d'une longue suite de quêtes.
Ouais.
Mais je trouve que le monastère Écarlate a quand même un aspect historique, entre guillemets, un peu plus important que la confrérie des maçons, etc., des Mortemines, même si l'histoire est importante, mais.
Ouais.
Quand même l'impression. Voilà, quoi, que c'est un peu plus important. En termes de PVE, Blizzard aime l'idée. D'avoir plus d'un raid de même niveau à la sortie de l'extension. Donc comme pour Burning Crusade par exemple, où on avait Grul, Mactéridon, on a eu ensuite Grul et Mactéridon qui étaient de même niveau, ensuite on a eu SSC, donc la caverne du serpent, et l'œil qui étaient du même niveau, etc. Ils ont aimé ça à la sortie de l'extension, donc, et ils préféraient faire ça plutôt qu'un gros raid comme Naxxramas, Sabloth et Lich King. Et là, je dis que j'avais encore raison par rapport au débat du mois dernier, hein, puisque j'avais parlé de ça, je disais que je trouvais ça plus intéressant dans Burning Crusade. On devrait donc voir, je l'espère, plusieurs raids accessibles dès l'accession, enfin, dès l'accession. Après, c'est un peu stuffé, quoi, mais
oui.
À la sortie du...
Qu'on soit arrivé au niveau 85.
Voilà, enfin... À Blast of Lich King, on avait une Naxxramas, mais on avait aussi quelques petites instances, quoi. Sartarion, Maligos, mais je veux dire, bon, voilà, quoi. C'était des mini-instances.
Oui.
Donc, moi, j'espère deux grosses instances dès le début. Ça serait intéressant.
Très bien.
Assez de faux espoirs. Vous ne pouvez pas gagner.
En termes de PVP, quelques petites news. Tout d'abord, un problème. Le problème du manque de champ de bataille à Blast of Lich King. Qui devrait être réglé, donc on vous en a parlé tout à l'heure, il y a très longtemps qu'il y avait eu un problème de manque de champ de bataille à Wrath of the Lich King, c'était Caro qui en avait parlé, c'était un problème qui, enfin, un truc sur lequel reviendraient bien les développeurs, et bah ça devrait être réglé avec les champs de bataille classés dans Cataclysme. Je vous rappelle qu'il y aura un système de classement dans les champs de bataille de Cataclysme, assez différent quand même du système d'arène, on y reviendra peut-être, Patrick vous en avez déjà parlé dans son explication à la BlizzCon. Bon, on vous expliquera peut-être encore dans les mois à venir lorsqu'on aura plus d'infos sur les batailles classées en Cataclysme. Mais en tout cas, ça devrait faire revenir du monde dans les champs de bataille et aussi peut-être la création de plus de champs de bataille s'il y a plus de monde dedans. Des leçons ont été prises du Joug d'Hiver. Donc, le Joug d'Hiver qui a assez mal tourné finalement pour les développeurs. Hein. Enfin, assez mal tourné dans le sens où ça a trop bien tourné.
Voilà.
Trop de monde y est allé, donc les développeurs ne souhaitent plus créer une sorte de monstre énorme comme ça pour les serveurs qui était impossible à supporter pendant une grande partie et pendant assez longtemps. Puis ils ont eu du mal à trouver les solutions, ça leur a pris du temps.
Oui.
Et on devrait assister plutôt à une réduction du nombre de véhicules hein, dans Tol'Barad, donc beaucoup moins de véhicules que pour le Joug d'Hiver, et plus de combats standards. Je pense que c'est vraiment ce que demandent les joueurs aujourd'hui, plus de combats naturels, quoi, standard.
Avec des armes.
Ouais, c'est plus intéressant, enfin, voilà quoi. Des véhicules de temps en temps, mais plus basé peut-être une bataille entière sur les véhicules. Ça devenait un peu trop, too much. Ouais. Tout ça, c'est encore en développement, mais Tol Barad devrait être disponible hors des batailles. Devrait être disponible, mais pas en tant que zone joueur contre joueur. Enfin, ça restera une zone joueur contre joueur, mais ouais. Ça devrait être en fait le nouveau Keldelar. Donc, pour les gens qui se souviennent de Burning Crusade, c'était une zone très fructueuse. Encore une fois, pourquoi je dis fructueuse à chaque fois? Mais non. Très
riche.
Très riche, oui, très riche, où il y avait beaucoup de quêtes journalières. Je suis d'ailleurs exalté, hein, sans la péter. Tol Barad, donc, qui devrait être une bataille importante. Une fois peut-être toutes les heures et demie, toutes les deux heures, et en dehors des batailles, être une zone de quête. Alors peut-être seulement pour la faction qui aurait gagné, peut-être la zone.
Peut-être bien, ouais, je pense.
Mais en tout cas, vu que ça reste une joueur contre joueur, on peut s'attendre quand même à une zone où il y aurait pas mal de bastons. Vous êtes resté très silencieux depuis tout à l'heure, j'ai l'impression de faire un monologue assez long et...
Ouais, t'as tout monopolisé la parole.
Bah ouais, mais voilà quoi, c'était la partie news. Oui, Florent.
Bah, c'est le problème aussi de qu'on voit avec Joug, ils ont au Joug d'hiver, ils ont essayé de faire des 2-3 petites quêtes qui sont enfin qu'on doit faire hors du champ de bataille, enfin de la zone où on va se combattre. Et ça a pas trop marché. Hein.
C'est surtout qu'en plus les récompenses ça reste du truc joueur contre joueur quoi.
Le seul moment où il y avait un peu de combat je trouvais au Joug d'hiver, c'était un peu pour les granules, etc., et la pêche, mais c'est encore c'est anecdotique pour le coup.
Mais encore, ça n'a pas bien fonctionné, quoi. Donc, ça n'a pas bien fonctionné dans le sens où ça n'a pas recréé une sorte de. Comment ça s'appelle ? De plateau des élémentaires, ou à l'époque de Burning Crusade, où il y a vraiment des bastons du PVP sauvage, comme on l'appelle. Là, il n'y a pas eu cette dynamique qui a été refaite avec Wrath of the Lich King, il n'y a pas eu énormément de joutes, quoi. Moi, je suis allé farmer à plusieurs reprises, hein, aller pêcher, etc. J'ai pas croisé beaucoup de monde en dehors des batailles, quoi. C'était vraiment, on se rejoint tous pour la bataille, on fait exploser le serveur, puis on repart après.
Voilà.
Là, ça devrait être une zone qui devrait être plus peublée, et peuplée à peu près tout le temps. Donc, Tol Barad, encore quelque chose à surveiller. Et bien, c'est tout pour la partie news. Donc, j'espère qu'on n'a pas été trop long sur les détails techniques, mais je pense que c'est assez important de bien vous expliquer les modifications qui seront apportées à Burning Crusade, modifications qui je trouve
qui est pas trop de surprise pour vous.
Ouais, et puis je trouve ça intéressant de voir les réactions des développeurs face aux divers problèmes qu'ils ont rencontrés. À l'époque de Burning Crusade, lorsqu'ils avaient sorti cette extension, ils partaient entre guillemets, j'ai pas envie de dire de rien, mais ils partaient d'un jeu qui était comment dire évolué certes, mais pas trop compliqué encore. WoW Vanilla avait assez évolué, mais évolué assez sobrement. Burning Crusade a apporté beaucoup de choses et Wrath of the Lich King a voulu mettre la barre un peu trop haut peut-être et a créé beaucoup trop de choses, donc on espère retourner sur quelque chose d'un peu plus simple à Cataclysm. C'est l'impression que ça me donne personnellement.
Cataclysm, c'est synonyme de changement, c'était aussi synonyme de simplification.
Espérons-le.
Ou de bordel.
ou de ratage total et de passe de 12 millions de joueurs à 1 million. Enfin, faudrait vraiment qu'il soit.
Non, je pense pas. Je pense que ça promet tout ce qu'il nous dit.
Je pense aussi. Et on va donc passer à la partie rédactionnelle. Partie rédactionnelle est tout d'abord Warcraft pour les nuls et le truc du mois. Ce mois-ci, c'est Florent qui l'a choisi. Alors, qu'est-ce que c'est que le truc du mois ?
Donc, le truc du mois, c'est quand vous arrivez niveau 80 et que vous commencez à vous faire un stuff digne de ce nom, Pensez à ne pas oublier d'enchanter et de gemmer votre équipement.
C'est vrai que c'est assez important. Enfin, même au niveau 80, lorsque vous commencez à avoir des pièces de stuff tout simplement, où il y a de quoi mettre des gemmes, les gemmes vertes, c'est pas cher, quoi.
Puis ça vous apporte un gain de...
Non négligeable.
Ouais, parce qu'en fait, la différence entre une gemme... Bon, maintenant, la différence entre une gemme verte et une gemme épique est importante. Oui. Mais la différence entre une gemme verte et une gemme bleue est pas énormissime, quoi. Donc, je veux dire, sur le prix, enfin, en comparaison, est très différent. Donc, même si vous avez un objet vert de quête, n'hésitez pas à aller acheter une petite gemme verte, ça augmente bien les capacités. Mais en parlant de gemme épique, il me semble que Florent, tu voulais parler d'un autre petit truc, non?
Bah oui, par exemple, une gemme que vous pouvez obtenir, c'est si vous faites beaucoup de BG pour avoir 10 000 points d'honneur, vous pouvez ainsi acheter une gemme épique qui vaut autrement entre 100 et 200 PO à l'HV. Donc pour le coup, ça vous permet en même temps de faire un peu de PVP et de vraiment un grand gain d'économie surtout. Qui est le truc qui m'intéresse.
Je reconnais bien là, Florent. Je reconnais ton âme gobeline dans ces mots. Donc effectivement, oui, ça permet d'économiser un peu d'argent. Mais par contre, ça demande quand même beaucoup... Enfin, 10 000 points d'honneur, ça demande un peu de temps. Donc il faut aimer le PVP. Ne gâchez pas vos points d'honneur. Achetez des gemmes épiques, revendez-les ou équipez-les au choix. Et comme le dit Florent, c'est une véritable économie d'argent. Est-ce que je pourrais ajouter un petit truc du mois?
Non.
Vas-y.
Non? Ah d'accord, bon bah ok, c'est mort. Eh bien, on passe au mode... Bon, allez, je rajoute quand même. Petit truc du mois pour ceux qui ont peut-être une mésaventure malheureuse, vous en train de pêcher, peut-être, je ne sais pas, au jeu d'hiver ou dans une contrée lointaine de Norfandre, vous êtes en train de pêcher, évidemment, vous remontez sur votre monture et vous vous inscrivez dans un BG, on parlait de BG à l'instant, ou vous allez faire de l'arène, ou tout simplement vous repartez quêter. Mais ça fait toujours idiot, mais vraiment, vraiment bête, quoi. Au moment où vous vous retrouvez dans le BG et vous vous dites mais je tape pas fort quoi, tu vois, à ce moment là il y a un petit peu le doute qui s'insinue, mes capacités de DPS sont mauvaises. Pensez à rééquiper votre arme quand vous avez fini de pêcher, c'est... Non, franchement, c'est...
Sinon un DPS de moule pour pas
oui non c'était pas agréable, hein. Moi c'était en raid plutôt, donc j'arrive en raid, tu vois, tranquillou.
Moi aussi, mais c'est quoi ton DPS de merde? J'ai oublié d'équiper mon arme.
Ouais, tu ouvres ton sac, tu vois plein de poissons, tu fais j'ai compris.
Moi, c'est pas comme si quasiment à chaque fois que je pars en donjon aléatoire, vu qu'en plus j'ai un chapeau pour augmenter ma compétence de pêche, je me ramène avec mon petit chapeau de pêcheur et ma canne à pêche et je ne me rends compte évidemment soit aux trois quarts de l'instant, soit on me le dit tellement je suis pas doué. Alors pourtant j'ai mon personnage en face de moi quoi, et surtout de dos, c'est-à-dire que je vois la canne à pêche derrière. Et non, je suis aveugle comme je ne sais pas quoi, et voilà.
Un chapeau qui ressemble à un autre chapeau, n'est-ce pas, me semble-t-il.
Oui. Oui, c'est en fait, j'ai le chapeau IRL et in-game, en fait, c'est un peu ça.
Donc tu augmentes ta compétence pêche dans la vraie vie, c'est très important pour pêcher. rien dit, très bien. Nous passons au mode du mois. Non, faut qu'on arrête les blagues vaseuses. À chaque fois, on se fait insulter. Ah, d'ailleurs, en fait, si vous voulez insulter Caro, petite info, vous pouvez maintenant lui envoyer
des mails,
des mails à caro@frenchpin.com. Donc, elle a son adresse perso. On rappelle peut-être les adresses perso de Florent et la mienne. Florent, toi, c'est florent@frenchpin.com, c'est ça? Voilà. Et moi, c'est alex@frenchpin.com. Et évidemment, si vous voulez envoyer un message à toute l'équipe directement, à une boîte que l'on consulte tous, vous l'envoyez à afr@friendspin.com. C'est la boîte par laquelle vous pouvez communiquer généralement. Le mode du mois, donc, parce qu'après ce petit...
intermède.
Intermède, non pas musical, quoique, Florent aurait pu nous chanter un petit truc. Non, là, là, non, non, mais Florent a un don pour faire des jingles. Tu veux pas nous faire un jingle pour un mode du mois, non?
S'il te plaît.
Ah mais le mode du mois. Alors. Et voici tout de suite le mode du mois.
Wouhou! Bon, je crois qu'on le gardera et on va le mettre en sample. Alors le mode du mois, c'est Caro qui s'en occupe. Maintenant comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire.
Ça y est, c'est moi ma refilée.
Donc le mode du mois, c'est deux modes en fait.
Ah oui, cette fois-ci, alors là j'ai tapé fort. Je vais vous présenter Encydia Fails Et Mash Nuggets. Non, ce n'est pas un menu chez McDo.
Vite.
Ouais, je sais que t'as faim, mais on va attendre.
Okay.
Donc, Encydia Fails. Donc, c'est un add-on qui affiche sur le canal de discussion toutes les erreurs commises par les raiders. Donc, par exemple, vous êtes à Naxxramas, vous êtes sur Grobulus, et un tel pète dans le raid. Et ben là, il va être lynché, ça va être marqué dans le canal de discussion, un tel a... a pété dans le raid.
Il est marqué en fait have failed à chaque fois.
Il
a failli, il a complètement raté, c'est marqué.
Donc t'es bouh,
il a marqué le nombre de fois aussi, c'est ça qui est absolument ignoble. Je me rappelle d'un Sartarion, en plus Sartarion, il est super pénible.
Pour les laves.
Oui, les laves. Et évidemment, à la fin, tu vois le mec qui s'est pris genre 20 laves, tu sais, dans la tronche.
Et les gens, ils peuvent te lyncher du coup.
Voilà, il y a marqué machin s'est planté 11 fois, machin s'est planté 52 fois, machin s'est planté. Voilà. Ouais. Je trouve cet add-on absolument dégueulasse et en même temps super pratique.
Oui, donc, mais bon.
C'est... Moi je dis que c'est dégueulasse, mais en tant que. Enfin, si il y a juste l'équipe de qui gère le raid qui l'a, c'est-à-dire les officiers, par exemple le
maître. Non, ça peut être mis sur le canal de raid.
Hein. C'est ça le problème. Si en temps il y a juste les officiers, etc., là ça permet de savoir, de lui dire après à la fin du raid, t'as ça que t'as pas fait très bien, tu pourrais la prochaine fois essayer de faire attention, etc. Alors que là, c'est un lynchage public.
Mais oui, mais ça fonctionne en même temps parce que t'es un peu sous tension, t'as pas
du
envie de te tromper.
Ouais, mais là, du coup, les gens ils sont beaucoup plus réactifs, plus attentifs.
Surtout quand il y a des hauts faits, parce qu'il y a beaucoup de hauts faits qui demandent de pas que personne dans le raid se prenne un truc ou un tel truc.
C'est ça.
Effectivement, pour Sartarion, il y a la chose qui demande de se prendre aucune lave. Par contre, je crois que c'est un haut fait personnel, mais c'est pas global. Mais bon, certains hauts faits voilà, qui demandent de ne pas se faire shooter. Par exemple, comment il s'appelle? Ah, Thaddeus.
Oui.
Qui demande de ne pas se faire exploser. Que j'ai d'ailleurs. Qu'aucune
positif
et négatif s'explose.
Enfin,
voilà.
Tu changes bien de
coup. Enfin bref, add-on qui est très pratique pour les raid leaders.
Oui, voilà.
Mais que je pense tous les membres de raid redoutent.
N'aiment pas trop, effectivement.
Mash Nuggets.
Donc, Mash Nuggets, c'est à l'honneur. Les mages sont à l'honneur. Donc, je vais expliquer. Ouais, voilà, tu connais peut-être, Alexandre.
Les mages, oui.
Mash
Nuggets, pas du tout.
D'accord.
Je connais les
mages. Alors, en fait, ça t'indique, sous forme de petites fenêtres, toutes les indications importantes pour les mages. À savoir son spell, son crit, ça. Je connais pas vraiment beaucoup les mages, c'est pas ma spécialisation, mais
ouais,
tu devrais
t'y
retrouver.
Ouais, c'est ça, spell, crit, ouais.
Toucher, voilà.
Okay.
Donc, il indique également, sous forme de fenêtres annexes, les différents procs et debuffs. Donc,
ouais.
Les déflagrations des arcanes.
Ouais, déflagration des arcanes, c'est pour les spé arcanes, mais
d'accord.
Je vois de quoi tu parles. On pourrait parler de chaleur continue, par exemple,
voilà.
En spé feu.
Et donc, ces différentes fenêtres sont déplaçables, un peu comme Domino, que j'avais parlé la dernière fois. Et comme pour tout add-on, il dispose d'un petit bouton qui se place automatiquement autour de ta minimap. Qu'on clique dessus.
Donc, c'est-à-dire le 78e bouton à mettre sur la minimap.
C'est
ça,
d'accord. Où tu n'as plus du tout de place.
Mm-hmm.
Oui, mais paradoxalement, ça doit normalement faire un gain de passe puisque ça affiche, quand tu cliques dessus, les différents portails et téléportations du mage qui sont affichés et qui retirent normalement de la place. Et
qui,
voilà.
Ouais, qui fait gagner de la place, quoi. Ce dont tu me parles, en fait, moi je l'avais en plusieurs add-ons. Alors il faudrait que je teste Mage Nuggets. J'avais plusieurs add-ons, alors j'ai plus du tout les. Je crois qu'il y avait un truc qui s'appelle Event Alert, ou un Mage Alert plutôt, qui fait apparaître effectivement les procs, etc., sous forme d'une image qui apparaît au milieu de l'écran, avec un petit son, tu vois, mais que tu peux choisir. Genre ça peut être une vache, ça peut faire. C'est complètement débile, hein, mais ça fonctionne bien pour faire repérer un petit peu le proc. Et ce dont tu me parles avec les portails, etc., c'est très très pratique.
Ouais.
Mais je connaissais un autre add-on aussi qu'il faisait. Alors je crois que c'est Dag Assist. Je suis pas sûr
du
tout.
C'est tout un regroupement en fait. Hein,
bah, c'était pas sur la minimap, c'était une sorte de petit rond que tu pouvais placer n'importe où sur ton écran.
Mm-hmm.
Et quand tu cliquais sur le petit rond, t'avais affiché. Alors il y a plein de trucs. T'avais affiché les portails, les téléportations évidemment, la pierre de foyer, les métiers. Il y avait aussi affiché. Donc pour moi c'était alchimie, mais aussi la cuisine, le secourisme. Qu'est-ce qu'il y avait encore d'écrit? La pierre de foyer, je l'ai dit. Bon, je crois que c'était à peu près tout. Mais ça faisait une liste pour un mage, ça faisait une liste assez conséquente, quoi. Il y avait au moins, moi j'avais 20 trucs, je crois, à peu près. Et je l'ai toujours d'ailleurs. Il me semble que c'est Dag Assist, je vous confirmerai ça dès que je jouerai. Mais si cet add-on regroupe tout ça, effectivement.
C'est assez intéressant. Normalement, c'est vraiment un gros gain de place pour les mages. C'est vraiment spécifique aux mages.
Ok. Bon, Dag Assist, je suis plus sûr s'il est spécifique au mage, je crois pas. Donc, on verra, je vous en parlerai peut-être le mois prochain. si c'était celui dont je voulais parler. C'est tout pour le mode du mois ?
C'est tout.
Ok, donc on va passer au Monde Pet Show, et je ne vais pas demander à Florent de faire un deuxième...
jingle.
Ouais, un deuxième jingle, hein. Ça va faire un petit peu beaucoup, je pense. Donc, je vais te laisser humblement parler de ce Monde Pet Show.
Donc, le Monde Pet Show qui est aujourd'hui le poulet des prairies, dans les marges de l'Ouest et les clairières de Tirisfal.
Mais à la base, c'était que dans la marge de l'Ouest, non ?
Alors voilà, donc le poulet des prairies, pour l'instant, était accessible que dans les marges de l'Ouest, donc, et que par l'Alliance. Ouais. Et depuis la 3.1, il est enfin accessible pour les Hordeux dans les clairières de Tirisfal.
Enfin, en fait, il me semblait qu'il y avait une magouille qu'on pouvait faire pour qu'un Hordeux l'ait, c'est-à-dire qu'il fallait terminer la quête. Bon, je te laisse en parler, je dirai après.
Alors, tout d'abord, je remercie Jérôme, comme d'habitude, qui nous donne ce Moupet Show, et aussi Arnaud qui a lui aussi proposé la même idée.
Ah.
Comme quoi, voilà, les idées ne sont pas.
Les grands esprits se rencontrent.
Voilà, les grands esprits se rencontrent.
Voilà. Deux grands esprits qui se rencontrent là, en disant la même chose.
Voilà.
Enfin, ouais, c'est ce qu'on
dit.
Voilà.
Alors.
Oui, excuse-moi, Florent.
Désolé.
J'ai l'impression que c'est que quand Florent parle.
Ce petit poulet. Alors, tout d'abord, il va falloir que vous achetez un sac de nourriture spéciale pour poulet, que vous pouvez avoir pour 25 pièces de cuivre à Saldéane le fermier, à la ferme de Saldéane dans la marge de l'Ouest, donc pour l'Alliance.
Mais c'est hors de prix.
Off,
cher.
Pour quelqu'un de niveau 5, 25 pièces de cuivre, je pense que c'est énorme.
Non, 25 ou 5, tu as dit
25.
Oh, 25, non, 25, t'es passé à la pièce d'or. Hein. Donc bon, pour l'Alliance, c'est la ferme de Saldéane.
Voilà, et pour la Horde, donc, c'est William Saldéane, bizarre, on se demande si c'est de la famille. donc Abril, cette fois-ci, bien mort pour lui.
Oui, donc en fait, c'est un Saldéane, mais qui est moins vivant, c'est ça ?
Voilà, c'est ça, okay. Donc la clairière de Tirisfal.
Ok, ils ont bien amené le truc, pour une fois. C'est assez rigolo. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir ce poulet ?
Dès que vous avez acheté ce sac de nourriture pour poulet, vous cliquez sur un poulet, qui donc est jaune.
Oui.
Donc sans le tuer, faites pas bouton droit, sinon ça, vous ne pourrez pas. Vous pouvez pas le faire avec un poulet mort.
Il me semble que si, c'était le truc rigolo, mais bon, peut-être plus maintenant, ça a peut-être été changé. Enfin bref.
Par exemple, il n'y a pas trop de poulets à clairière de Tirisfal. Alors par exemple, il y en a un près du puits de Bril, si vous le cherchez.
Ouais.
Et donc vous faites slash poulet. En restant le bouton gauche sur le poulet, donc
sans le décibler, quoi.
Voilà, sans le décibler.
Et sinon, c'est
vous faites pas mal de fois, c'est peut-être environ une cinquantaine de fois. Après, ça dépend, il y a des gens, c'est peut-être un peu plus ou un peu moins.
Ouais, donc enfin, à la main, c'est un peu long, je crois, non ?
Bah oui, c'est vrai que pour le coup, faire à chaque fois, même faites CTRL-C, CTRL-V, même si vous copiez-collez, vous allez un peu perdre la tête. Alors le plus simple, ce qui est quand même pas compliqué, même si vous ne connaissez rien en macro, c'est juste faire une petite macro slash poulet et voilà, et après vous cliquez comme un barbare sur votre bouton.
Non, moi je conseille un truc peut-être 10 000 fois mieux. Vous mettez une macro, mais dans la macro vous mettez pas seulement un slash poulet, vous en mettez 6 ou 7. Comme ça, ça va spammer vraiment le poulet de slash poulet. C'est-à-dire en un clic vous en ferez 7 directement et ça va très vite, quoi. En l'espace de 5-6 clics, ça y est, il y a. Que va-t-il se passer, Florent ?
Et donc le poulet devient vert. Et
devient vert.
Il a la grippe aviaire.
Oh non.
Il est donc amical.
Cling.
Et donc vous lui donnez le sac de nourriture spécial pour poulet pour valider cette quête. Et il pond un œuf.
Un œuf. Oui, très bien.
C'est pas grave.
Et donc vous cliquez droit dessus, vous l'ouvrez, il arrive dans votre sac. Et après, vous avez juste à cliquer bouton droit pour apprendre le familier, le poulet des prairies.
Donc en fait, il est super facile à apprendre. Il faut juste connaître le truc, quoi.
Voilà, faut juste savoir le truc. Après, c'est vraiment anecdotique.
Eh oui, donc c'est bien sympa. Moi, je crois que j'avais découvert ce pet. Je pense que tu l'as aussi, Caro, non ?
Non.
Non ?
Non.
Quelle honte ! Oh !
Non, je l'ai pas, mais je vais m'empresser de le faire.
Propose une flagellation publique pour ne pas avoir ce pet. Non, mais enfin, moi je crois que je l'ai connu au niveau, je sais plus, 70, je crois.
Bon, moi je m'intéresse pas trop aux familiers.
C'est super rigolo.
Oui, c'est marrant, mais le poulet.
Ouais, c'est vrai. Donc, on remercie encore Jérôme pour ce Monde Pet Show.
Et Arnaud
pour ce Monde Pet Show. Bon, c'est tout pour la partie Warcraft pour les nuls et on passe à Warcraft pour les semi-pros. Et la partie maintenant qui est dédiée à Caro, qui s'arrache les cheveux certes, mais qui va la faire, devenir pro. Et donc vous vous souvenez le mois dernier de ce qu'on avait fait. On avait fait la présentation des 4 premiers boss de la citadelle Crâne de Glace. Et bien Caroline maintenant va faire...
Je vais m'atteler à l'aile de la pesterie.
L'aile de la pesterie qui est donc composée de 4 boss.
Trognepu, Professeur Tricy. Okay. Il en manque un quatrième, non?
Non, pas du tout.
Non, c'est moi. Désolé.
Oh là là.
Non, je suis fatiguée. Okay.
Ça commence bien, donc l'aide de la pesterie avec 7 boss.
Trop bien. Donc, non, c'est pas vrai.
Non, il y a 2 mini-boss par contre, ça c'est vrai.
Ouais, que je vais présenter.
Esprit de Ghost Crawler, es-tu là?
Excuse
de quoi? De Ghost Crawler, non, c'était une petite blague qu'il avait fait sur les forums avec la stèle de la corne de glace où il y aurait 23, c'est ça? 23 boss, je crois.
Je ne sais plus le nom, mais c'était tellement hallucinant que...
J'y avais cru un petit peu. Enfin bref. Passons, on vous l'a déjà raconté dans un épisode précédent, ouais. Et donc on va laisser Caro parler des 2 mini-boss.
Oui, parce que j'ai choisi en fait de pas faire toute l'aile de la pesterie d'un coup. Donc j'ai choisi donc de présenter Bijou et Kifouette, et après Pulentraille. Et je m'attends, enfin, le prochain épisode sera certainement Trognepu seulement, parce qu'il est assez compliqué à expliquer.
Ok.
Donc voilà, donc les 2 mini-boss, Bijou et Kifouette. Donc... A savoir, si vous avez le skin de Glut en tête, ils sont exactement pareils. Et paradoxalement, ils ont aussi
Glut dans Naxxramas. Hein,
Glut dans Naxxramas, ouais. L'espèce de chien bizarre.
Donc le boss dont tu parles, c'est celui où il y a les zombies qui se réveillent, qui tombent, qui se réveillent, etc.
C'est okay. Ça, voilà. Donc les deux, Bijou et Kifouette, ils ressemblent et ont aussi l'attaque, le fameux décimé. Donc avec les ZAD zombies à tuer en les quittant. Mais bon, cela, ça dépend de la strat utilisée. Et donc, notamment par Bijou. Alors en fait, Bijou, il a globalement les mêmes attaques que Glut, encore une fois. Je m'explique, il a donc un debuff anti-soin et cumulable sur le tank. Donc dans ce combat, à 10 comme à 25, il faut 2 tanks absolument.
Il faut alterner, quoi.
Oui, il faut switch des 2 tanks, en fait.
Ok.
Et donc, et au heal, pour Bijou, 2 suffisent. Un heal de raid et un sur le tank.
Tu parles de
à 10. À 10 comme à 25.
À 10 comme à 25, ok.
Voilà. Donc, ce boss-là, il fait pop plus de 10 mobs, des zombies. Tous qui ont un nombre important de PV. Donc là, par contre, ça change de Glut, il me semble. Hein.
Bah, Glut, disons qu'en fait, il y avait des périodes où ils avaient beaucoup de points de vie. Voilà, et après, à un moment, ils perdaient beaucoup de points de vie et il fallait les tuer à ce moment-là.
Et donc, ils ont tous un nombre important de PV et posent un debuff cumulable dans le temps dès qu'il y a contact avec telle ou telle personne, comme Glut encore une fois, et voilà. Donc, il y a 2 strats possibles pour gérer les ZAD. Donc, soit la méthode bourrine, où vous allez full AOE, donc ça demande un DPS assez important de raid. Ou sinon... les zombies se déplacent lentement de base, donc il n'y a pas besoin de les ralentir davantage. Donc, de fait, si vous savez pas, enfin, vous voyez peut-être la salle de Kologarn, comment elle est disposée avant de rentrer dans Kologarn. C'est une grande salle où en fait il y a des escaliers en colimaçon qui se rejoignent à l'étage.
En fait, il y a de quoi faire un kite, quoi, facilement.
En fait, il y a vraiment. Ouais, voilà, il y a vraiment moyen de faire balader en fait le boss là pour le coup dans les escaliers, monter, descendre. Non.
Sauter ou descendre?
Non, descendre.
Okay.
Et donc en fait on tourne en rond pour tuer les ZAD et voilà. Donc c'est la manière la plus simple, entre guillemets, la plus facile pour gérer les ZAD.
Ok.
Voilà.
Donc
voilà, la véritable difficulté c'est la gestion des ZAD et le décimer.
D'accord.
Qui tombe encore une fois la vie de tous à 10% comme Glut en fait, voilà.
D'accord, ouais, c'est vrai que ça c'est pas simple. Kifouette.
Voilà, Kifouette. Donc là, changement, il n'y a pas du tout d'AD. Il n'y a pas d'AD. En contrepartie, il y a une énorme AOE de poison qui fait des dégâts considérables dans tout le raid et qui affecte tout le raid sur une distance de 40 mètres. Voilà, c'est ce que je voulais dire.
Mais en fait, la salle est assez grande pour pouvoir se barrer ou c'est impossible de ne pas la prendre, cette AOE?
Non, normalement, je crois qu'il n'y a vraiment pas possibilité d'y échapper.
Ok.
Donc, c'est là donc la grande difficulté du combat couplée au décimé. Donc, il faut un gros heal.
Attends, tu veux dire qu'il peut lancer son décimé et direct mettre l'AOE?
Non, il a l'AOE et puis pof, il peut te déposer ton décimé.
Il peut pas faire de décimé AOE. Ça serait peut-être un peu trop énorme, non?
Bah en fait, là, pour le coup, c'est vraiment couplé AOE okay, donc en plus fait, décimé.
Donc en fait, les îles, il faut qu'ils y
aillent. Ah là, et, bah, c'est pour ça que oui, il faut absolument un énorme heal de raid. Un très bon heal de raid.
Ok.
Et de tank aussi, mais là, franchement, il faut bien bourriner au niveau de heal de raid. C'est un conseil que je peux vous donner. Pour ce qu'il faut être.
Ok, donc l'étape de loot doit être énorme.
Eh ben non. Non, non, alors, c'est ça, la première fois que j'ai vu ça, j'étais morte de rire. Sauf pour Bijou, il y a un beau petit ruban. Alors, un petit ruban, en fait, c'est une somptueuse chemise verte qui ne sert à rien, à rien. Juste à bénéficier d'un buff, vous avez gagné le premier prix de beauté. C'est ouais. Vachement utile.
Bah, c'est super rigolo.
C'est mignon, moi je trouve ça marrant. J'étais marrant, en fait j'étais pliée en deux, moi quand j'ai vu ça, j'ai dit oh non, arrête, faut pas.
Donc en fait ce petit chien avait gagné le prix de beauté quoi.
Voilà, c'est ça. Alors que devenir, paradoxalement il est très moche, voilà.
Ouais.
C'est ça. Ouais. Donc maintenant, eh ben, je vais peut-être passer à Pull-Entraille.
Pull-Entraille, donc premier boss, enfin
non,
premier boss au choix.
C'est vous qui choisissez, voilà, c'est ça. Et donc. Ouais. Donc il a un enrage très très court, 5 minutes. Et en plus de ça, il a énormément de points de vie.
Donc là, pour le coup, pas de heal et que du DPS, quoi.
Ah là, oui, c'est une course au DPS qui débute dès le pool.
Ok.
Donc voilà. Mais bon, encore une fois, selon moi, Trognepu est bien plus difficile, mais je vous en parlerai la prochaine fois.
Ok.
Donc, les quelques spécificités importantes. Donc, au début du combat, le professeur Putricide, que je confonds toujours avec le professeur Tranchryptus, si vous connaissez.
Pas du tout.
En fait, c'est... Tu connais Florent ou pas du tout?
Il me dit quelque chose, mais après, je ne vais pas savoir si...
Alors, en fait, ça te dit quelque chose, Talramas ou pas du tout?
C'est pas une ziggurat quelque part, ça?
Non, du tout. C'est, en fait, une... Comme Naxxramas, une...
Une
citadelle volante, mais plus petite, qui devait normalement être la vraie, enfin prendre l'importance de Naxxramas.
Elle se trouve pas dans la toundra boréenne.
Si c'est ça, okay. Qui est scratchée. Et en fait,
il y a un professeur qui s'appelle Tranchryctus quoi. Dans cette.
C'est ça, dans ce bâtiment, il y a un professeur qui s'appelle Tranchryctus.
Citadelle volante.
Merci, citadelle volante. Bref. Donc Tranchryctus, qui pour moi connotait le professeur Putricide, je ne sais pas pourquoi j'ai fait l'amalgame. Bref, donc ce professeur Putricide lance un poison sur toute la surface du terrain, du coup, et le sol devient complètement marron, et cette substance provoque beaucoup de dégâts au raid, mais le boss tape relativement faiblement.
Ok, mais ça dure tout le combat ce sol?
Ça dure tout le combat.
Ok, donc ça demande un heal constant finalement.
Alors attendez, je voulais revenir aussi sur Kifouet, je suis vraiment plus sûre, mais je crois que en fait c'est vraiment 40 mètres, mais du coup il y a peut-être moyen de bouger le boss, je m'en souviens plus, je sais plus, j'ai un blocage.
Ok, bref. Bon c'est pas grave.
Bref, à revérifier, je vous dirai la prochaine fois.
Ok.
Donc le sol devient donc marron et voilà, donc vous prenez des dégâts et le boss tape plus faiblement. Et au fur et à mesure du combat, le boss fait entre guillemets l'éponge et absorbe un peu de poison à chaque fois. Il fait ça 3 fois, diminuant progressivement les dégâts, mais augmentant parallèlement ceux subis par le tank. Il faut donc obligatoirement 2 tanks, que ce soit en 10 ou en 25.
Et pourquoi 2 tanks?
2 tanks parce qu'en fait, il pose un debuff sur le tank, qui le provoque, faisant ainsi augmenter les dégâts que fait le tank, de 10% par application. Mais, d'un autre côté, au bout de 10 debuffs, il faut changer de tank, sinon le tank explose carrément, ce qui provoque le wipe assurément.
Mais tu veux dire explose genre...
Il explose, je pouf,
ah, okay.
Comme une bombe. Donc moi je conseille à 8 debuffs, vous changez direct de tank parce que sinon c'est vraiment ingérable.
Ok, et puis le DPS gagné, enfin c'est pas très important, enfin je veux dire...
Dans, pouf, bah, dans la période où il tape relativement faiblement, vous pouvez quand même bien bourriner.
Ok.
Donc à intervalle de temps régulier aussi, le boss fait pop 2 spores, voilà.
Là c'est pas sports.
Et donc elles ne sont pas attaquables, contrairement à celles de... Eh bah j'ai oublié le nom du boss, que je rechercherai. Et pop sur 2 personnes aléatoirement. Donc, au bout d'une quinzaine de secondes à peu près, cette spore explose, qui cause peu de dégâts, mais augmente la résistance des personnes dans la zone d'explosion de la spore au chancre. Donc le fameux poison.
Donc c'est un bonus.
Donc c'est un bonus explosion. Pour le coup.
Okay.
Comme voilà. Donc il est indispensable que le raid se sépare en 2 groupes équitables, 2 groupes caster, l'autre cac. Bref, que ce soit le plus équitable possible, car le boss qui fait pop 2 spores, il faut que chacun des groupes ait la sienne de spores, du coup.
Okay.
Sinon, précision que je voulais ajouter, sinon, il vous fait vomir. Et ce qui fait... Oui, c'est bien. Bah, en fait, si vous êtes trop près l'un des autres du groupe, les gens vomissent, ce qui fait une perte de heal ou de DPS distance.
Ouais.
Et du coup, ça peut affecter aussi les cacs, et du coup, ça pose un problème de DPS. Donc il faut faire attention, il faut quand même bien s'espacer, c'est le conseil aussi que je donne.
Ok.
Ça fait un peu comme le plus et moins dans Omé Canard.
C'est un peu ça, ouais, voilà.
Ok.
Donc voilà. Donc quand le boss aura ingéré 3 fois du poison, comme je l'avais dit plus haut, il va le relâcher tout le poison, causant beaucoup de dégâts de raid, mais ceux-ci peuvent être supportables seulement si tout le raid a reçu son spore. Donc c'est très important.
Puisque les spores augmentent la résistance.
Augmentent la résistance au chancre. Voilà, c'est
d'accord.
Ça. Donc, je récapitule, il faut 2 tanks, 2 heals en 10, 2 tanks, 6 heals, donc 4 heals de raid en 25.
D'accord.
Voilà.
Donc,
J'espère que je ne vous ai pas assommé avec mes explications qui est un peu plus fournies que la dernière fois.
Pas du tout, mais c'était fort intéressant. Donc ça, c'était pour plus l'entraille. Premier boss au choix de l'aile de la peste. Donc le mois prochain, tu nous as dit que tu nous parlerais de...
De seulement 30 mieux plus, parce qu'il est, pour moi, il est vraiment assez compliqué à expliquer en soi. Il est vraiment difficile et voilà.
Ok, bon, on verra si on arrive à la convaincre de faire le professeur putricide. On essaiera, on vous promet rien.
D'accord. Je ferai un effort, en fait. Si vous êtes gentil, si vous avez mis des bons commentaires, voilà.
Oh là là, j'y crois pas.
Hein. La carotte.
Le chantage.
Mais non, c'est
bon,
pas.
Bon, alors c'est tout pour Warcraft pour les semi-pros, et donc on passe à l'histoire du mois, qui ce mois-ci est l'histoire de Malfurion Stormrage. De Malfurion Stormrage, et évidemment je remercie comme chaque mois Michael alias Elunaran pour cette somptueuse histoire. Donc Malfurion Stormrage, ou Malfurion Hurlorage en version française, était en fait un elfe né à l'âge d'or des Cales d'Oreille. Donc son frère jumeau était Illidan, et ils ont grandi donc à cet âge d'or sous le règne d'Ashara, je vous en avais parlé il y a quelques mois. Ils ont grandi avec Tyrande Whisperwind. Vous devez connaître un petit peu ces noms, ça doit vous dire quelque chose. Et Malfurion a étudié la magie.
Alerte!
Alerte! Irradiateur 3000 activé! Alerte!
Et Malfurion a étudié la magie dans cette cité. Mais s'est détourné en fait, contrairement à son frère Illidan, de la voie arcanique. La voie arcanique, suivie par les bien-nés, ne l'a pas intéressé et... Il a préféré en fait plutôt être seul, il était replié sur lui-même, Malfurion. Il préférait se promener en fait dans les forêts d'Ashenval, près de Suramar, là où il vivait. Où en fait, il a décidé vraiment de s'installer. Et c'était un elfe un peu, comment dire, particulier quoi. Il aimait vivre seul, pas trop en communauté.
C'est l'associable.
Exactement. Il a quand même suivi un peu un cursus arcanique quand même. Et lors de ses études, avant d'abandonner le cursus arcanique, j'ai envie de dire la voie arcanique, il a découvert plusieurs légendes qui concernaient un demi-dieu qui s'appelle Scenarius. Donc vous le connaissez aussi très certainement si vous avez fait quelques quêtes à Sidetus. Et il a décidé en fait de le rechercher en compagnie d'Illidan et Tyrande qui, bon eux deux, ils y croyaient pas vraiment mais ils se sont dit que ça allait être un petit divertissement, ça allait être sympathique. Et il a décidé de rechercher ce demi-dieu dans les forêts, chose étrange pour des elfes qui à l'époque n'étaient pas vraiment tournés vers la nature quoi. C'était pas vraiment ce qui les intéressait le plus. Ils ont été assez rapidement repérés par Scenarius dans les forêts, hein, avertis par la faune et la flore, ce demi-dieu, le demi-dieu de la nature. Et il a vu en Illidan, il a vu l'ambition quoi, en Tyrande il a vu la véritable gentillesse. Et dans le cœur de Malfurion, il a vu le potentiel d'un apprenti, hein, plutôt un apprenti potentiel. Et il leur est apparu, dans une sorte d'éclair un petit peu, il leur a fait un peu peur quoi, mais il est apparu et il leur a conté les arts druidiques. En fait, il leur posait la question, pourquoi me cherchez-vous? Et il ne savait pas trop quoi répondre, donc Scenarius s'est dit, bon tiens, si je leur racontais un petit peu ce que sont les arts druidiques. Malfurion s'est révélé un disciple très talentueux. Illidan, contrairement à lui, s'est révélé vraiment un piètre apprenti, et Tyrande, elle, était déjà sur la voie des lunes quoi, donc ça n'intéressait pas trop d'avoir un peu une autre doctrine. Donc, Malfurion a fait vraiment des progrès considérables à cette époque sur la voie druidique, et il a eu des visions néfastes concernant son peuple, concernant les bien-nés et les agissements de sa reine Ashara, concernant simplement les cales d'oreilles de Zinashari donc. Et il a vu en fait, dans une vision, le pacte de la reine, avec les légions ardentes, avec la légion ardente. Et donc il a prévenu son mentor. Évidemment, Sinarius s'est dit, oh là, c'est pas possible, quoi. Ça me fait un peu peur. Et il s'est dit, bah tiens, tu vas essayer de régler ce problème. Tu vas essayer de régler ce problème avec la reine, donc tu vas y avoir. Mais c'était trop tard, quoi. Le portail était déjà ouvert, et le portail était déjà ouvert, pardon. Et une bataille s'est ouverte dans le temple de la reine. Alors, évidemment, cela a mené à l'implosion du puits d'éternité. Mais surtout, Illidan, le frère de Massurion, a fui avec la Légion, directement, suite en fait. Ça fait. Bon, c'est un petit peu la touche romantique, quoi, hein, la touche un peu féminine de l'histoire, j'ai envie de dire. il s'est fait un peu, il s'est pris vraiment un râteau de la part de Tyrande, hein, on peut le dire clairement. Il a fait sa déclaration, et donc bon, suite à ça, il s'est dit, bon, j'en ai marre, quoi, et en plus, à cause de ses implications arcaniques auprès de la reine Ashara, il était un petit peu il avait quelques problèmes, quoi. Donc, il s'est dit, bon. Je vais partir avec les gens, donc, mais il s'est vite ravisé, et il est revenu un petit peu, tel une petite fleur, comme ça, des champs. Il est revenu finalement vers les ailes de la nuit, et il a dit, non, mais les gars, attendez, j'étais avec vous du début à la fin, et il a dit qu'il fallait faire un agent double, quoi, auprès de la Légion. Évidemment, Malfurion a un peu de mal à croire tout ça, hein, et c'est pour ça, ils ont, le peuple, les elfes de la nuit et Malfurion n'ont jamais plus vraiment eu confiance en Illidan. Pendant ce temps, Scénarius lui a continué de former son apprenti, et il a demandé de l'aide aux autres demi-dieux d'Azeroth pour sauver le continent. En fait, l'implosion n'a pas encore eu lieu, que Scénarius sent bien que Malfurion ne pourra pas y arriver seul, une guerre est en cours, et il va donc demander l'aide aux autres demi-dieux, et le cours de la guerre va commencer à changer. La Légion va focaliser sa puissance sur les demi-dieux, en fait, qui vont vite être submergés, ils vont vite en prendre vraiment plein la tête, quoi. Et Scénarius va être blessé au combat. Son père Malorn, le demi-dieu Ser, va se lancer pour sauver ses fils, et va repousser sans trop de mal les démons qui étaient jusque-là arrivés. Mais par contre, l'arrivée d'Archimonde le Terrible va sonner un peu le glas de sa mort, qui va lui tordre le cou, qui va lui rompre le cou sans aucun mal. Et donc, à ce moment-là, le père de Scénarius, Malorn, meurt. Pendant ce temps, les elfes de la nuit avaient écarté Scénarius, qui lui était inconscient, il était blessé, donc Scénarius ne voit pas la scène. Mais Malfurion, lui, est là, il observait la scène, et disons qu'il a un tempérament plutôt calme, mais là, il voit que le père de son mentor meurt. Donc évidemment, ça le fait entrer dans une fureur totale, et il va complètement faire apparaître des racines qui vont entourer complètement Archimonde, et Archimonde va manquer de mourir. Il va avoir le temps de se téléporter juste à temps pour éviter la mort. L'implosion du puits d'éternité va obliger Malfurion ensuite et son peuple à quitter les rivages. Hein. Il était trop tard pour sauver le puits d'éternité, c'était trop instable, il va imploser et en fait les rivages vont être détruits et le niveau des mers va monter. Donc les elfes de la nuit et Malfurion donc vont être obligés de fuir, vont être contraints d'aller vers Ijal. Illidan, lui, dès l'arrivée à Ijal, il voit que tous ses camarades sont exténués, sont fatigués, se reposent, mais lui non, il va à la recherche d'une étendue d'eau, une étendue d'eau potable, et dans cette étendue d'eau, il va verser le reste des fioles du puits d'éternité dans l'eau. Par contre, malheureusement pour lui, ça n'a pas passé inaperçu. Enfin, évidemment, s'il fait ça, c'est dans le but de recréer un nouveau puits pour étancher sa soif de pouvoir. Hein. N'oublions pas que Illidan est un des premiers, j'ai envie de dire, à avoir eu une dépendance à la magie, quoi. Une dépendance en termes de.
Mais avec les derniers, en fait, parce qu'ils étaient complètement monopolisés par.
C'était monopolisé, mais lui, on a l'impression que c'est plus fort encore. Ouais, ça s'approche pas parce que déjà, je le sens.
Il a perdu complètement l'esprit, en fait, face à son pouvoir.
Exactement. Donc, il verse les restes des fioles du puits d'éternité pour créer un nouveau puits, mais il va être repéré par les ailes de la nuit et il va être enfermé pour son avidité. Arcanique par Malfurion et par Scénarius dans une prison souterraine gardée par la fameuse geôlière Maiev Shadowsong. Maiev donc la chanteuse de l'ombre. La reconstruction va suivre la guerre, la reconstruction va suivre l'implosion du puits d'éternité et après une discussion assez peut-être mouvementée, Malfurion va décider d'abolir la pratique de la magie des arcanes. Donc il va envoyer en exil ses frères bien-nés, ceux qui n'ont pas voulu abandonner les arcanes, ceux qui ont voulu les continuer. Et il va instaurer ainsi en fait un climat de paix durable chez les elfes. Et ces arts druidiques vont s'étendre. À cette époque, les arts druidiques s'étendent aussi un peu chez les autres elfes, et le cercle scénarien est créé. Évidemment, cercle scénarien, Scénarius. Hein. Ensuite, il va s'exiler dans la méditation et dans le rêve d'Emeraude, avant d'être réveillé par Tyrande lors du retour de la Légion Ardente en Azeroth. Alors là, évidemment, Tyrande, croyant bien faire, va aussi libérer Illidan dans l'espoir qu'il puisse aider en fait, son frère jumeau, Malfurion, à mettre un terme à la guerre.
C'est pas la deuxième guerre, il me semble.
Très très bonne question.
Il me semble que c'est la deuxième guerre.
Il me semble que ça coïncide avec l'arrivée des orques et des humains, non?
Il me semble que c'est la deuxième guerre.
Allez,
je suis sûre.
Ouais. Par contre, il va être consommé, Illidan, malgré sa volonté de bien faire, il va être quand même consommé par sa soif de pouvoir. Et qu'est-ce qu'il va faire lui? Bah, il va rien trouver mieux que consommer le crâne de Gul'dan. Donc ça coïncide avec l'arrivée des orques. Hein,
c'est ça.
En Azeroth. Il va consommer le crâne de Gul'dan et grâce à ce pouvoir, finalement, Illidan va quand même réussir à tuer Ticondrius, qui était le chef des forces démoniaques en Felwood, en Gangrebois. Gangrebois qui est d'ailleurs encore sous les influences de quelques satyres, etc. On sait bien, satyres qui sont à la base des Kaldorei. Mais il va quand même se faire bannir par son frère parce qu'il n'avait pas consommé ce crâne de Gul'dan. Et malgré ses bonnes intentions, il va être banni à jamais des terres elfiques par son frère. Lors de la bataille du Mont Ijal, Malfurion, alors la bataille du Mont Ijal évidemment, on va peut-être pas trop vous en parler quoi, parce que vous commencez à la connaître, je pense, si vous avez fait les instances à Burning Crusade. Lors de la bataille du Mont Ijal, avec les forces de l'Alliance et de la Horde qui sont, comment dire, j'allais dire qu'ils sont en alliance, qu'ils sont unis, qui sont unis, Malfurion va décider, voyant que la bataille contre Archimonde est très difficile, va décider de sacrifier Nordrassil, l'arbre monde, afin de vaincre Archimonde. Donc on voit des milliers et des milliers d'âmes d'elfes sous forme de feu follet qui vont entourer Archimonde et qui vont le détruire. Voilà. Donc Malfurion est aussi connu quand même en tant que vainqueur d'Archimonde, un général en chef, j'ai envie de dire. Des puissances de Sargeras. Illidan, lui, était parti en attendant à la poursuite, on parlait de lui, de l'œil de Sargeras, poursuivi par Maiev et Tyrande, Maiev et Tyrande qui sont pas très contents qu'Illidan soit parti, donc elles le poursuivent.
Ça peut être Tyrande.
Et lors d'un affrontement, Tyrande, dans un, comment dire, pour protéger les civilisations, va détruire un pont, mais va tomber. En fait, elle va se sacrifier. Et elle est présumée morte. Maiev va retourner à Malfurion, et va lui dire que, eh bien, que sa bien-aimée est morte, tout simplement. Évidemment, qu'est-ce qu'ils vont faire? Maiev va dire, n'oublions pas notre tâche, n'oublions pas que nous devons retrouver Illidan. Et donc Maiev et Malfurion vont se mettre à poursuivre Illidan. Et lorsqu'ils vont le retrouver, Illidan va dire à Malfurion que Tyrande est en vie, qu'il l'a vu en vie. Et ainsi, les deux frères, ensemble, vont abandonner Maiev, qui la pauvre va se retrouver toute seule. Hein, mais les deux frères vont se mettre ensemble pour retrouver leur bien-aimé à eux deux, finalement. Même si c'est Malfurion qui aime Tyrande et Tyrande qui aime Malfurion, il y a un petit peu Illidan qui aimerait bien être avec elle. Très bien. Donc, la tâche accomplie, lorsqu'ils l'ont retrouvé, Malfurion permet à son frère de quitter Azeroth pour Draenor, donc de quitter le monde pour Draenor. Draenor qui est maintenant plutôt connu sous le nom de Outre-Terre. Malfurion, ensuite, alors là c'est un petit peu une partie mystérieuse. Après cet événement, Malfurion va tomber, enfin il va rentrer au refuge des 4 saisons, me semble-t-il, oui. Comme ça, et il va tomber mystérieusement dans le coma. Et Fandral Fort Armure, donc vous devez le connaître si vous allez de temps en temps à Darnassus, puisque c'est un des deux chefs de Darnassus avec Tyrande, va prendre le pouvoir du côté des druides. Donc les causes de l'état de Malfurion en fait restent un peu indéterminées. On sait pas trop où il peut être, on suppose qu'il s'est égaré dans le rêve d'Emeraude, mais on se demande à quand son retour. Alors aujourd'hui, c'est la situation actuelle.
C'est que
des spéculations, c'est la situation actuelle à Wrath of the Lich King. On sait pas trop où il est, on pense qu'il est dans le rêve d'Emeraude.
On est sûr qu'il est dans le rêve, je crois, parce que si je le dis, on le voit dans.
On le voit dans une quête.
On le voit dans la quête, j'ai oublié le nom, comment s'appelle la ville des Sarcénariens, c'est Reflet de Lune, voilà. Ouais. À Reflet de Lune, il y a une quête et on le voit enfanté, je crois, un truc comme ça.
Oui, t'as raison, je crois qu'on rentre nous dans le.
Je sais pas si on rentre, en tout cas on voit.
Je crois qu'on rentre dans le rêve d'Emeraude.
Ah, je sais pas, y a pas, d'ailleurs faut pas aller voir Scénarius, pour ça.
C'est ça.
Oui, ça met quelque chose, exact.
Oui, moi aussi, mais c'est ça.
On voit une potion, etc.
Oui,
puis on y a un truc. Ah, c'est vrai que c'était étrange.
Oui, je me souviens de ça.
Sachant que le rêve d'Emeraude, c'est plutôt le cauchemar d'Emeraude. Parce
oui,
c'est
un peu.
Ah, oui, il est.
Mais il est bloqué, quoi.
Comme l'année, je pense que c'est un lien, du coup, avec, comme t'as dit Florent, le cauchemar, puisque c'est.
Exactement.
Le fléau du royaume d'Izera.
Voilà. Donc bon, là, on va vous parler un tout petit peu de Cataclysme. Donc, passez une minute ou deux, si vous voulez pas en parler. Donc, un peu la projection de cette histoire sur Cataclysme. On pense que Malfurion va sortir du rêve d'Emeraude. On l'espère d'ailleurs.
Excuse-moi, il va peut-être pas être content que justement les mages elfes reviennent.
Peut-être, mais je pense surtout que ça va être le retour de son ami Deathwing qui va peut-être pas lui plaire.
Mais il va peut-être complètement ébranlé par Cataclysme. Donc,
peut-être, le rêve d'Emeraude, tu parles.
Mm-hmm.
Peut-être, ouais.
Je sais pas s'il va être altéré vu que c'est un monde parallèle, entre guillemets, mais peut-être que.
C'est pas comme les mondes élémentaires, elles, eux vont être.
Détruits,
mais là pour le coup, le rêve d'Emeraude, on verra.
Bon, en tout cas, on pense que ça va être le tuteur de Thrall.
Je pense, oui.
On pense que ça va être le tuteur de Thrall en tant que nouveau gardien. Prenant la place de Medivh, pardon, qui était donc le dernier gardien, mais qui finalement deviendrait l'avant-dernier gardien.
Voilà, c'est ça. On aurait changé le titre du bouquin.
Exact. Donc, bon, c'est un petit peu l'histoire est en cours, quoi. Vraiment, on devrait en savoir beaucoup plus à Cataclysme, on espère. Pourquoi pas le voir dans des quêtes ou des instances
Ou alors carrément dans. Non, c'est pas possible.
Dans le rêve d'Emeraude. Ouais, pourquoi pas une instance en rêve d'Emeraude, hein.
Ou alors carrément l'instance, je pensais, mais c'est pas possible dans.
L'instance où on va aller sauver Malfurion, non, hein. Ça serait sympa.
Là, oui, merci.
Ah, non, d'accord.
Ça. Je cherchais.
Bah, mais en quoi,
ça me semble bizarre puisque bon, il n'y a pas eu d'événement dans. Ah, quoique. Je sais pas. À travailler parce que le rêve d'Emeraude, c'est assez vague. Hein. On sait pas encore. Ou carrément, ils vont peut-être faire une extension même sur le rêve d'Emeraude. Mais...
Ah, bon.
Je sais pas.
Ça, c'est quelque chose depuis peut-être au moins depuis le début du jeu que les joueurs fantasment dessus, quoi.
Ouais, avec les archivides, les machins, les
trucs. Oui, forcément. Donc bon, voilà, c'était l'histoire de Malfurion Stormrage. Et on remercie encore une fois Michael, alias Elinoran, du forum. Et après ce petit mini débat sur Malfurion et sur Cataclysme, nous allons passer à la partie fourre-tout.
Bip. Pour des raisons budgétaires, nous avons été dans l'obligation de couler la partie histoire et de faire sombrer le fourre-tout. Nous vous souhaitons un bon jeudi et espérons que vous avez apprécié notre pêche d'informations.